Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre créneau conférence sur Radio Albigès. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur une rencontre qui a eu lieu le 21 mai à la foire Biocibel 2018. C'est Thomas Braille qui animait cette conférence sur les extraits végétaux fermentés, comme par exemple le plus connu, le purin d'ortie. Vous apprendrez donc pendant la prochaine heure ce que sont les préparations végétales fermentées, quelles sont leurs utilisations et leurs bienfaits sur les plantes, et puis surtout, comment réussir à coup sûr votre propre préparation. Vous verrez qu'avec pas grand chose, on peut faire des miracles en utilisant des plantes sauvages qui pullulent dans la région. C'est parti, on vous laisse en compagnie de Thomas Braille.
Alors pour présenter un petit peu Thomas Braille, alors on a parlé tout à l'heure et il m'a dit qu'il était donc grimpeur arboriste, il nous vient de Saint-Amand-Soult, il est producteur d'extraits fermentés de plantes et formateur en géobiologie, donc qui va vous aider à soigner les plantes par les plantes, également membre de l'association ASPRO, ASPRO qui signifie Association pour la promotion des préparations naturelles peu préoccupantes, et également de l'Association Nationale de Défense des Arbres, donc l'ANDA. Et vous pouvez avoir toutes les infos si vous souhaitez plus d'informations, si jamais la conférence n'est pas assez complète, mais ça m'étonnerait. Donc sur le site cipresdemonarbre.com, donc cipres comme l'arbre, cipresdemonarbre.com, tout attaché. Et donc cette conférence est animée par Radio Albigès et sera aussi retransmise sur Radio Albigès, si jamais vous voulez la réécouter. Et donc on va commencer par la conférence, présentée par Thomas Braille, et puis après il y aura un petit moment d'échange, de partage, donc où vous pourrez prendre le micro, poser toutes vos questions, faire part de vos expériences. Voilà, donc c'est parti, je vous laisse la parole, Thomas Braille, pour cette conférence sur les purins végétaux.
Merci. Alors, tout d'abord, merci d'être là devant moi pour écouter tout ce que j'ai à vous dire. Merci aussi à Thierry Ginesté qui est là et qui m'a demandé de venir. Ça, voilà, ça nous fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens intéressés par des méthodes alternatives aux pesticides, hein, puisque, bien entendu, les extraits fermentés ne sont rien d'autre que des alternatives aux pesticides. Mais on n'en parle pas beaucoup parce que, voilà, je suis quand même quelqu'un de très engagé. Je risque de le ressortir à beaucoup de moments, mais les lobbies freinent plein fer concernant les préparations naturelles peu préoccupantes, bien entendu, parce qu'il n'y a pas trop d'argent à gagner là-dedans, quoi. C'est plus facile de synthétiser de la molécule de synthèse sur des produits chimiques que de se baisser et de ramasser des plantes. Voilà. Donc, en fait, pour revenir un petit peu à la genèse, pourquoi je suis producteur d'extraits fermentés de plantes, chez moi, j'ai un yucca dans mon salon. Et ce yucca, il était très, très dépérissant, il était en pot. Donc c'était un yucca qui avait ce qu'on appelle une chlorosphérique. Vous avez déjà dû voir ça. Vous avez les feuilles, elles sont entre le jaune et le vert, d'accord. Donc il y a vraiment une carence en fer. C'est typique des plantes en pot, qui, à un moment donné, utilisent tous les éléments nutritifs que la terre possède. Et donc, à un moment donné, il n'y a plus rien à manger. Alors, plutôt que d'acheter tous ces types d'engrais comme Algo Flash ou tous ces produits qu'on donne pour nos plantes d'intérieur, qui sont ni plus ni moins que des engrais solubles, hein, on appelle ça des engrais solubles, donc des engrais chimiques, azote, phosphore, potasse en chimique, eh bien, j'ai eu envie d'essayer un vieux rêve d'essayer de fabriquer mes propres extraits fermentés. Voilà, parce que quand j'étais tout petit, ma grand-mère, il y avait toujours un bidon bleu en plastique dans le jardin où il y avait ces fameux orties à l'intérieur. Et quand on passait, bien entendu, mais ça puait d'une force. Hein. Je ne vous apprends rien. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à les réaliser, mais à bien les réaliser, d'accord ? Parce que les extraits fermentés, alors on a réappelé ça les extraits fermentés, voilà. On peut parler de purins, d'accord, mais à l'époque, les purins, c'était surtout des bases animales. Donc on a réappelé ça les extraits fermentés. Pourquoi ? Parce que dans le mot extrait fermenté, vous avez fermenté. Donc on arrête l'extrait fermenté au stade de la fermentation. Si on passe le stade de la fermentation, on rentre dans la putréfaction. D'où à l'époque, on appelait ça les purins, d'accord, mais c'était surtout des bases animales. C'était voilà, du caca de vache, machin, enfin voilà, tout ce que vous voulez, mais c'était surtout sur de la base animale. Donc on a préféré réappeler ça, donc les extraits fermentés. Voilà, ça a une connotation un peu plus saine, on va dire, ne serait-ce qu'à l'odeur. Ces extraits fermentés, bien souvent, alors qui en a déjà réalisé ici en fait ? Levez la main, les coupables, voilà. Attention, l'État vous regarde. Bon, très bien. En fait, donc on croit savoir les réaliser, mais bien souvent, voilà, on se trompe, et grandement d'ailleurs. Je vois des gens qui me disent mais oh là là, j'ai cramé mes végétaux, machin. Bon, alors là, il faut quand même que l'ortie reste très, très 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 longtemps dans l'eau, je tiens à vous le dire. L'extrait fermenté, vous allez rentrer, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez arrêter votre extrait fermenté au stade de la fermentation. Et bien souvent, ce que les gens font, et ce que vous avez tous très certainement fait, vous avez ramassé soit de l'ortie, soit de la bardane, soit de la consoude, voilà. Toutes ces plantes, elles sont là devant vous, hein, je les ai prises aujourd'hui, ce matin, je les ai cueillies pour vous montrer un petit peu, je les ferai passer pour ceux qui ne les connaissent pas. On va parler un petit peu de ce qu'on appelle les quatre mousquetaires, d'accord ? Ce sont plus ou moins les plantes qui vont être les plus utiles pour notre potager. Après, il existe moult extraits fermentés. Hein. On peut en faire de l'achillée, qui est une plante antigel. On peut en faire de la valériane. On peut en faire de tellement de plein d'autres choses. Notamment, chaque plante a ses particularités et a ses molécules spécifiques qui vont agir et qui vont traiter tel et tel cas, d'accord ? Donc, ce que vous allez faire donc, ce que vous avez très certainement fait, c'est que vous avez récupéré donc vos végétaux, vous les avez mis dans l'eau, d'accord, 1 kilo, alors ça on va sur internet, on le voit très bien, c'est 1 kilo de plantes fraîches pour 10 litres d'eau, d'accord, on met tout ça dans une bassine, et la plupart du temps, les gens qui le font très 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 mal, ne remuent tous les jours même pas pour faire remonter les bulles, d'accord, qui sont coincées, les bulles d'oxygène et qui sont coincées au fond. D'accord ? Donc, alors, ceux qui ne remuent pas, c'est encore pire. Hein, mais même ceux qui remuent, parfois, ça peut arriver que votre extrait fermenté ne va pas partir en fermentation. D'accord ? En fait, c'est comme une bière, tout simplement. Ça peut être assimilé à une bière. Il faut qu'il y ait une mousse en surface. Si vous n'avez pas de mousse en surface, ça veut dire que votre fermentation, elle n'a pas démarré. Et si vous n'en avez jamais jusqu'à la fin, ça veut dire que votre fermentation, elle n'a jamais démarré. Et là, votre purin, il est mort. Voilà. C'est aussi simple que ça, quoi. Je vais vous expliquer un petit peu le... vite fait, hein, je veux pas. Après, on passera vraiment au côté pratique. Là, c'est juste un petit peu pour rentrer un petit peu dans le détail, approfondir. Hein, parce que c'est facile de dire on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Que vous essayez de comprendre un petit peu et d'analyser ce qui se passe quand il y a un extrait fermenté qui se déroule. Donc, en fait, comme je vous disais, on est proche d'une fermentation. Donc, on est dans un milieu endogène, c'est-à-dire ça va être un milieu fermé. Voilà, je suis assis sur le préparateur d'extrait fermenté, hein, je le cache bien, je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà, c'est cette fameuse bassine, et on va travailler avec un couvercle flottant. Voilà, c'est pour ça que vous allez le réussir, parce que bien souvent, on fait les extraits fermentés en milieu ouvert. Il faut que ce soit dans un milieu fermé, d'accord ? Alors, et je vais vous apprendre en plus de ça à réaliser que ça va vous coûter 3 francs 6 sous, parce que des préparateurs en inox, ça coûte entre 600 et 800 euros. Un petit préparateur inox, voilà, du style pour faire de la bière ou des trucs comme ça. Donc, en fait, vous allez avoir le gaz carbonique qui est contenu dans les vacuoles. Alors, ce qu'on appelle la vacuole, dans une plante, ce sont des toutes petites poches, d'accord, qui sont dans le végétal. Alors, imaginez un petit peu que la vacuole, ce sont comme des petits intestins, d'accord. Et à l'intérieur de ces petits intestins, c'est là où sont logés tous les principes actifs de la plante, d'accord. Alors, une plante... Elle établit en premier tout le végétal, il fonctionne tout comme ça. C'est-à-dire que vous avez en premier lieu, ils mettent en place ce qu'on appelle les terpènes, d'accord. C'est les premières molécules qu'un arbre met en place, d'accord. Il y a les sucres, pardon, ensuite viennent les terpènes, d'accord. Donc les terpènes, c'est ce que, quand vous vous promenez dans des forêts de pins, c'est ce que vous sentez, cette odeur de terpènes, d'accord. Ce sont des molécules fortement anticancérigènes. Et d'ailleurs, si vous vous promenez un jour dans une forêt de pins, vous rehaussez votre système immunitaire de 50%. C'est pas rien, mais voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous avez les deuxièmes molécules que les plantes mettent en place, ce sont les phénols. Les phénols, vous en avez dans le vin, ce sont des substances antioxydantes. D'accord ? Les phénols, ce sont ces substances qui permettent au bourrelet cicatriciel, quand vous coupez une branche, d'accord ? Cette espèce de bourrelet là qui se fait pour refermer la cicatrice de la branche. Ça, ce système-là, on appelle ça les phénols. Voilà, ce sont ces substances qui permettent le recouvrement cicatriciel. Ensuite, vous avez les esters. Les esters, ce sont des molécules fortement insecticides. D'accord ? Donc, voilà, ils ont synthétisé, les laboratoires Monsanto, Bayer et compagnie, ils ont synthétisé la molécule d'ester en molécule chimique. Et tous les produits que vous passez contre les pucerons, les machins sur vos plantes, ce sont la synthétisation de molécules naturelles. Ce sont des esters. Voilà. Et ensuite, vous avez après les cétones. Par exemple, les cétones, c'est le baume du tigre, le camphre. Vous voyez, ça vous éclate au nez. Ce sont des molécules fortement volatiles. Et ensuite, chaque plante va établir différentes molécules suivant ses caractéristiques. Mais là, déjà, on a une base. Terpène, phénol, ester. Okay, voilà. Et après, plein d'autres suivant les plantes. Donc, en fait, cette vacuole, donc je reviens là-dedans, où sont stockées toutes ces molécules naturelles de la plante, d'accord ? C'est ce qu'on va chercher à récupérer dans les extraits fermentés pour le redonner à d'autres plantes, d'accord ? Alors, ensuite, vous allez avoir toute une batterie d'enzymes qui vont décomposer les sucres donc, et les minéraux. Et puis, vous allez avoir des bactéries de surface, puis à l'intérieur, qui vont absorber tout l'oxygène. D'accord ? On va absorber tout l'oxygène, donc en milieu, avec ce fameux couvercle, on va absorber tout l'oxygène. Et une fois la disparition totale de l'oxygène, l'extrait fermenté va se bonifier. D'accord ? C'est là où il va commencer à falloir être attentif à quel moment on va récupérer notre extrait fermenté. Voilà, parce que ça, c'est important. Parce que voilà, ça se joue à quelques jours, hein, un jour ou deux. Hein, parfois, s'il fait chaud, si vous ne le récoltez pas à ce moment-là, et paf, il passe au stade de la putréfaction. Donc ça se joue à rien, quoi. Donc ensuite, vous allez avoir là, vous allez avoir des germes anaérobies qui vont transformer les matières azotées en produits plus simples avec l'aide de bactéries. Ces produits vont se transformer en matière ammoniacale, en acide carbonique et en matière plus liquide. Voilà, j'arrête là, c'est pas la peine de vous en foutre plein la tronche davantage. C'est pour expliquer un petit peu ce qui se passe quand il y a une fermentation de plantes. Okay. Alors, les quelques plantes, aujourd'hui, on va travailler que sur quatre plantes. Hein, donc, elles sont là-dedans. Donc, la consoude, moi, elle a un petit peu dérouillé avec les limaces cette année. Mais voilà, donc je vais vous faire passer les plantes, comme ça vous allez les voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, la consoude, j'en ai pas beaucoup, la pauvre. Voilà, si quelqu'un veut bien faire passer la consoude. Voilà. Alors, la consoude, en fait, cette plante, elle va renforcer la cuticule foliaire de vos végétaux, d'accord ? La cuticule foliaire, c'est cette matière cireuse que vous avez à la surface de vos plantes, d'accord ? Ça va la renforcer contre les pluies acides, contre tout type d'attaque. Pas forcément les insectes, parce que la cuticule foliaire, elle est difficile à percer. Ça reste quand même quelque chose de très très dur. Donc les insectes, ils sont souvent sous les feuilles, hein, les pucerons, là, pour pas qu'on les voit, là. Ils sont pas bêtes. Alors, en fait, c'est une plante qui est stimulante, hein, qui va favoriser la pousse des semis, qui va stimuler la vie du sol. C'est un excellent stimulant foliaire, un accélérateur de compost. Voilà. Quand il vous en reste, vous en passez sur votre compost, ça va activer les micro-organismes de votre compost et ça va permettre sa décomposition plus rapide. C'est aussi un bon insecticide contre les mouches blanches sur choux, et les plantes ornementales et les pucerons. Voilà. La fougère aigle. Formidable, ça c'est magnifique. Alors ça c'est 80% de calcium la fougère aigle, c'est assez exceptionnel, c'est chargé de silice. Alors les plantes siliceuses, c'est ces plantes, si jamais, est-ce que vous avez déjà essayé d'arracher une fougère comme ça, à main nue, il ne faut pas s'y amuser, parce que là vous vous tranchez la main direct, quoi, hein, d'accord, et ça c'est la silice. Alors la silice c'est quelque chose qui est très très fortement paramagnétique, hein, d'accord, c'est très très bon. Pour information, les sols paramagnétiques, ce sont par exemple les sols de régions où vous avez des volcans, les régions volcaniques, d'accord ? Les légumes, ils sont le double que dans les régions où c'est pas paramagnétique, d'accord ? Voilà, il faut quand même le savoir. Alors, je vous la fais pas passer, on la voit, hein, vous savez ce que c'est une fougère ? Ça, c'est la fougère aigle, hein. Vous avez la petite fougère, là on travaille avec la fougère aigle, elle est très grande la fougère aigle. Voilà. Alors bien entendu, c'est pas parce qu'on prend des plantes et qu'on va s'en servir pour notre jardin qu'on ne doit pas les respecter. D'accord ? À chaque fois que j'ai donné un coup de sécateur ce matin, j'ai demandé pardon. Ça me fait plaisir, ça me coûte rien, et elle aussi, je pense. D'accord ? Voilà. Tout ne nous est pas dû. D'accord ? Parce que, à mon avis, si on va droit dans le mur aujourd'hui, c'est parce qu'on pense que tout nous est dû. Voilà. Mais tout ne nous est pas dû. La plante, elle est là, elle sert à quelque chose. Ce matin, j'ai décidé de la couper. Je lui dois au moins le respect et lui dire, excusez-moi, voilà, c'est pour une conférence. Ben voilà, elle est bien contente de savoir qu'on m'a arrêté d'acheter des produits chimiques, peut-être. Donc, alors, par contre, à ce stade, est-ce que je peux faire un extrait fermenté, par exemple, à ce stade ? Tiens, allez, je vais vous faire travailler un peu. Est-ce qu'à ce stade, je fais un extrait fermenté de fougère ? Regardez bien la plante. Oui, peut-être. Oui, alors, vous avez trois réponses. Oui, peut-être ou non ? Éventuellement, bravo madame. Elle manque de fraîcheur. Alors non, parce que regardez en haut, vous voyez la crosse ? On appelle ça les crosses. Elle n'est pas ouverte en haut. Ça veut dire que votre plante, elle n'est pas au stade adulte. D'accord ? Donc on utilise toujours les plantes au stade adulte. Et on utilisera toujours les plantes feuilles avant fleurs. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il y a une fleur, il va y avoir ensuite des graines. À partir du moment où il y a une fleur, vous allez avoir tous les principes actifs de la plante qui vont migrer dans la fleur, d'accord, et dans les graines. Donc vous perdez tous les principes actifs, enfin pas tous, mais vous en perdez une bonne partie. D'accord ? Donc là, on attend que la crosse terminale soit ouverte, qu'elle soit bien élargie, qu'elle soit bien grosse et bien large. Voilà. Et là, on a un très très bon extrait fermenté. Alors, il faut trouver le compromis entre votre plante, si vous observez la nature, d'accord ? Là, on est en train de s'apercevoir que la nature, en ce moment, elle est en train de passer au vert foncé. Vous en apercevez ou non de ça ? D'accord ? Voilà, le débourrement, quand vos feuilles sont en train de s'ouvrir, ok, ça débourre, on est sur du vert clair. Vous avez remarqué ça ou non ? D'accord ? Ensuite, on passe sur du vert foncé. Donc, il faut trouver le compromis entre le vert clair et le vert foncé. D'accord ? C'est là où vraiment les plantes, elles sont très très efficaces. Quand elles sont vert clair, qu'elles sont bien ouvertes avant de passer au stade vert foncé. Là, vous avez tous les principes actifs. Après, elles deviennent dures, coriaces, et c'est un peu plus compliqué. Ok ? Alors, donc, ma petite fougère, je vous l'ai dit, ça, non ? Qu'est-ce qu'elle faisait, ma petite fougère, où je vous ai rien dit ? Qui c'est qui a suivi ? Ah, c'est ça. Silice et calcium ? Calcium, voilà, du calcium. Eh oui, hein, il faut manger, on le dit tous les matins, manger des fougères. Non, les produits laitiers, enfin, non, je ne sais plus. Alors, c'est une plante, voilà, stimulante, insecticide et fongicide, d'accord ? Donc, stimulante, c'est aussi un accélérateur de compost. Paillage des végétaux, ça, c'est très intéressant. Donc, si vous avez des grands champs de fougères, bah, vous demandez un grand pardon, hein, vous n'allez pas faire pardon, c'est trop long, un grand pardon. Et là, vous rentrez, hop, vous prenez de la fougère, d'accord ? Vous le mettez au pied de vos végétaux, ça vous fait, mais parfois, on ne trouve pas de la paille. Ah oui, parce que voilà, si vous paillez, parlons un petit peu de paillage. C'est bien beau de pailler, c'est clair. Mais pour trouver des producteurs de paille bio, faut se lever tôt. Il est là le problème. Et moi, j'ai ce même problème dans mon potager. C'est-à-dire qu'une année, j'ai réussi à trouver de la paille bio. C'est super, parce qu'en plus, c'est tubulaire et toutes les petites coccinelles vont à l'intérieur se réfugier l'hiver. Donc, ce qui fait que je suis gavé de coccinelles. Sauf que la fois d'après, je n'en ai pas trouvé. Je me suis dit, mais attends, ok, je vais aller en chercher chez ce producteur, mais il n'est pas en bio. Ça veut dire qu'en fait, le problème, c'est que ces pailles-là, elles sont pleines de pesticides, quoi. Si vous mettez ça dans votre jardin, c'est comme si vous. Voilà, ça annule totalement le truc. Donc, l'alternative, ben, c'est la fougère. Voilà, on paille avec de la fougère.
Non, je me disais, bonjour. Oui. La fougère, c'est aussi acidifiant pour le sol, non ? On ne peut pas faire du paillage avec la fougère. Est-ce que c'est la meilleure solution ?
C'est acidifiant. J'ai envie de vous dire oui et non, parce qu'à un moment donné, vous récupérez tous les principes actifs. Quand vous mettez un paillage frais, vous récupérez tous les principes actifs des plantes, d'accord, dans le sol. Ça aussi, c'est important, parce qu'un paillage sec, il ne vous apporte rien au final. Alors qu'un paillage. L'acidité aussi, elle se crée quand il y a un amas de, par exemple, de la tonte. Si vous mettez une épaisseur énorme de tonte, vous créez de l'acidité. Mais la fougère, c'est très espacé. Et ce qui fait que ça va pouvoir se dégrader la matière, c'est l'oxygène. Donc les milieux tassés, les composts trop tassés, à partir du moment où il n'y a plus d'oxygène, il n'y a pas de décomposition. D'accord ? Voilà. Comme par exemple, on n'enfouit jamais la matière organique. Les anciens, les papis qui mettent le fumier sur le potager et qui ensuite passaient le motoculteur, ben, si vous aviez, par exemple, de la matière, un fumier de mouton, vous savez, parfois ça arrive, ils sont secs comme ça, très très durs, ben, vous le mettez, vous l'enfouissez, un an après, vous tirez votre terre et vous retrouvez le même fumier qui n'a pas été décomposé. Parce que c'est l'oxygène qui décompose la matière. Voilà, c'est très important. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à partir du moment où la fougère elle est très espacée, si vous faites un amas comme ça, l'air va passer, ça va s'oxygéner, vous ne créez pas d'acidité, et du coup, vous récupérez tous les bénéfices de la plante, quoi. Voilà. J'ai répondu à votre question.
Oui, merci.
Formidable. Vous êtes formidable. Donc, voilà. Et ça protège contre les limaces, parce que, voilà, la silice, ce n'est pas quelque chose où elles aiment monter dessus, en fait. Ça, d'accord, ça taille. OK ? Donc c'est un très bon insecticide, ah oui. Ça, si vous faites des extraits fermentés de fougères, vous passez ça sur des cochenilles à carapace. Vous voyez ce que c'est la cochenille à carapace ? On dirait une petite coccinelle, mais toute grise, qui n'a pas de tête, qui n'a pas de pattes, qui est collée. Ça fait une espèce de truc bombé, là. D'accord ? C'est plein de petites cochenilles comme ça. Vous avez la farineuse, qui est blanche, qui fait comme de la farine, et la carapace. Vous passez l'extrait fermenté de fougères sur des cochenilles à carapace. Le lendemain, vous revenez, hop, vous appuyez, c'est tout mou. Alors que normalement, c'est tout dur, d'accord ? C'est très, très bon contre les cochenilles à carapace. Et voilà, la cicadelle de la vigne, la cicadelle verte de la vigne, pardon, les cochenilles à carapace. Ensuite, la bardane. Alors, regardez ça si c'est pas beau, la bardane. Vous connaissiez ces plantes ? Qui ne les connaissait pas ? C'est pas grave, il n'y a pas de bons et de mauvais élèves ici. Vous connaissiez pas ? Regardez, ça, c'est magnifique. Puis, il faut faire un bouquet de fleurs, c'est très beau en plus. Voilà. Donc ça, c'est de la bardane. Hein. Ce sont des plantes comme ça qui sont énormes, énormes, énormes. Ça, c'est très bon pour le stress hydrique des plantes. Je vous le fais passer, vous voulez l'avoir ? Oui, mais profitez. Parce que s'il y en a qui ont chaud, ça sert aussi dans les pays. On n'est pas en Équateur, mais on a de quoi avoir, se rafraîchir. Alors voilà, la bardane, donc, c'est une plante aussi structurante qui stimule le sol et la végétation. C'est une plante qui stimule le sol et la végétation, d'accord ? Et fongicide contre le mildiou de la pomme de terre. Voilà, très très bon. Les principes actifs de cette plante sont bons contre le mildiou de la pomme de terre. Pour terminer, voilà, mais je vous avoue que moi j'ai un faible pour cette plante-là, qui est l'ortie. Alors, qui non, personne ne la veut, d'accord ? Alors, l'ortie, il faut quand même savoir que... l'ortie, c'est une plante très très riche en protéines, d'accord ? Alors, pour information, ça va me revenir, je le cherche. Voilà, il y a 7 fois plus de vitamine que dans la il y a 7 fois plus de vitamine C que dans l'orange, dans de l'ortie. En fait, il y a des grands biologistes qui disent que s'il fallait garder une seule plante sur Terre, ce serait l'ortie, d'accord ? Vous vous perdez en forêt, là, ce que vous faites, vous prenez une feuille comme ça, d'accord ? Vous prenez une feuille comme ça, là. Bon, je ne vais pas le faire parce que j'ai le micro. Vous la pliez en deux, vous la roulez, d'accord ? Vous faites une espèce de tout petit chewing-gum, là, comme ça, et vous le mangez. Vous verrez, vous allez voir, déjà, c'est très, très bon. Et si vous êtes vraiment paumé en forêt et qu'il n'y a que de l'ortie, vous allez survivre. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est plein de protéines, c'est plein de vitamine C. C'est une très, très bonne... C'est 20 fois plus protéiné que le soja. 20 fois plus protéiné que le soja. Alors, on dit de l'ortie que c'est une plante rudérale, d'accord ? Et nitrophile. Alors, rudérale, pourquoi ? Parce qu'en fait, rudérale, elle est un petit peu le... Comment dire ? Elle pousse sur les décombres de ce que laissent les hommes. Bien souvent, quand vous avez un amas de pierres, un vieux tas de pierres, une maison qui s'effondrait, un machin et tout, elle est là. Elle est là, voilà. C'est une plante... Et nitrophile, parce que c'est une plante dépolluante. Nitrophile qui mange les nitrates. Vous remarquerez, il y a souvent de l'ortie en bordure de route. Les routes, je ne vous apprends rien, les gaz d'échappement, ils poussent les échappements sur la route. Dès qu'il y a une petite pluie, parfois, il ne faut pas rouler très très vite la première heure parce que ça glisse. Tout ça, c'est de l'huile. Tout ça, ça finit dans les caniveaux. Et dans les caniveaux, vous avez quoi ? Vous avez de l'ortie. Moi, mon rêve, ce serait de planter de l'ortie dans tous les endroits dépollués. Parce que, du coup, elle arrive à ingurgiter cette matière et après, on ne la retrouve pas dans la plante. Vous voyez, il y a des solutions, il y en a. Il faut avoir envie de les mettre en place, quoi. Et l'ortie, on peut la caresser. Hein, mais dans le bon sens, d'accord ? Ça se caresse comme ça, toujours, une ortie, dans le sens du poil. Hein. C'est comme nous, hein, si on nous caresse à sens inverse, on s'énerve. Hein. Pas vrai, monsieur ? Oui, oui, je le vois à la tête de madame. Alors, l'ortie, c'est formidable aussi, parce que c'est une plante où vous avez trois sortes d'acides. L'acide gallique, l'acide histaminique et l'acide formique. L'acide formique, elle est dans les poils, les petits poils urticants. D'accord ? Bon, normalement, j'avais un PowerPoint. Voilà, j'aurais dû vous montrer plein de photos. Il s'avère que c'est vrai qu'il n'y a pas assez de lumineux. C'est pas assez noir pour qu'on puisse faire des photos. Donc, j'essaye de vous le retranscrire comme ça. C'est un peu moins évident, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Mais dans ces petits poils urticants, vous avez cette fameuse acide formique. C'est pour ça que dès que ça pique, d'accord, c'est comme une petite seringue. Clac, ça casse et vous l'avez là. Et après, vas-y que je me gratte. D'accord ? Il y a plus d'acide formique dans une ortie que dans une fourmilière, quoi. Elle est plus puissante, l'acide formique. Parce que les fourmilières, voilà, quand vous passez la main comme ça, elles se mettent à l'envers, les fourmis, et puis elles vous envoient de l'acide formique. Si vous vous penchez à 50 cm et que vous mettez les yeux, vous êtes mort. Hein. Je vous le dis comme ça, quoi. Eh oui. Donc, voilà. Bon, moi, c'est ma plante fétiche. Ouais, vous l'avez remarqué, j'espère. Hein. Voilà. Alors, voilà. Pour information aussi sur l'ortie, il faut savoir une chose. C'est que dans les pays équatoriaux, c'est un arbre qui mesure 40 mètres. D'accord. Nous, sur nos latitudes, ça reste à l'état de plante. Mais dans la même famille, vous avez des arbres qui s'appellent le gimpi-gimpi. Il y en a même qui ont d'autres noms, qui montent à 40 mètres de haut. D'accord. Ils ont des grandes feuilles comme ça. Et une grande biologiste, elle s'est piquée une fois, elle a dit qu'elle avait eu l'impression de vivre un accouchement, quoi. Donc voilà, il vaut mieux qu'ils restent là-bas, quelque part, ces arbres-là. C'est des grands arbres à palettes, vous savez, avec des gros contreforts sur le côté, un petit peu comme les arbres équatoriaux, vous savez, des grandes palettes. Voilà. Mais voilà, ça quand je dis que c'est un arbre, ah bon ? Mais oui, parce que nous on la voit toujours à l'état toute petite ici. Mais sous d'autres latitudes, bien sûr, ça devient des arbres. Alors l'ortie, elle est bonne pour quoi ? En extrait fermenté. Ça va être une plante stimulante sur les carences, mais aussi comme fortifiant. C'est un stimulant foliaire, ça améliore la photosynthèse et la croissance. Et c'est un stimulateur de défense naturelle, on appelle ça des plantes hélicitrices. D'accord ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez prendre ces principes actifs de cette plante et les donner à une autre plante, vous allez rehausser, d'accord, les systèmes de défense naturelle des autres plantes. Voilà, on appelle ça un effet éliciteur. C'est très important. Voilà, en fait, on récupère dans une plante, vous avez, dans toutes les plantes, vous avez des oligo-aminés, des minéraux et des éléments. Et des oligo-éléments, des acides aminés et des minéraux, pardon. D'accord ? Donc, on prend ça d'une plante, d'accord, un extrait fermenté, et on le redonne aux plantes. Voilà. Et ce que je dis et qui est important, c'est que en tout début de printemps, là, c'est très très important de donner à manger à vos plantes. Pourquoi ? Parce que ben, c'est comme nous, hein, si dans l'hiver on ne fait pas des petites cures de vitamines et des machins comme ça, ben, on chope des rhumes, quoi, ou on n'est pas bien, voilà. Mais si vous mettez tous les atouts de votre côté et que vous faites en sorte de donner à vos plantes tous les éléments qu'il leur faut pour pouvoir se défendre, eh ben, vous réduisez les attaques des indésirables. D'accord ? Voilà. Une préparation d'extrait fermenté sur des plantes, vous réduisez de 80% les attaques d'indésirables. D'accord ? Voilà, c'est pas rien. Des petites questions peut-être ?
Juste s'il vous plaît, une astuce pour cueillir les orties voilà. Et le moment, voilà.
Alors, on y vient. Ne brûlez pas les étapes, je vous vois venir. Elle était là quand même depuis 3h du matin, dormait sur une botte de paille. Hein. Donc, on peut l'applaudir. Elle a encore les lèvres un petit peu bleues. Alors, on y vient, hein, d'accord, là-dessus. Alors, juste pour terminer sur toutes ces plantes, hein, je répondrai à vos questions, promis. Juste pour revenir sur toutes ces plantes, là, je ne vous parle que des extraits fermentés. À savoir que dans les préparations naturelles peu préoccupantes, ce qu'on appelle les PNPP, d'accord, ça vous parle, ça, les PNPP ? Voilà, on appelle ça les préparations naturelles peu préoccupantes. Donc, c'est l'État qui a donné ce nom, d'accord, à toutes ces préparations. Alors on a envie de leur dire, mais attendez, mais les pesticides, c'est très préoccupant, c'est beaucoup préoccupant, comment ça marche ? Parce que moi, ça me fait un peu marrer quand même, vous voyez ? Donc en fait, voilà, et pour information aussi, je fais partie de l'ASPRO, qui est l'association pour la promotion des PNPP. Parce que les seules alternatives aux pesticides que nous allons avoir, c'est de revenir aux plantes. Ce que faisaient nos grands-parents il y a 80 ou 90 ans, d'accord ? On s'est toujours soigné avec la nature. Il y a juste une passe, c'est là où on a fait n'importe quoi, là. Tac, tac, on a un peu vrillé, là, à un moment donné, c'est parti en cacahuète, hop, et puis là, maintenant, on est en train de s'apercevoir, mais on devrait y revenir, d'accord ? Alors, l'ASPRO demande qu'il y ait une autorisation de 800 plantes mises sur le marché. L'ANSES, qui est l'Agence nationale sanitaire, je ne me rappelle plus, là, tout leur truc, là, parce que ça me gonfle en plus. Bref, c'est juste qu'eux, ils ont dit, voilà, ils nous en autorisent que 140, rendez-vous compte, alors qu'on a 800, le choix sur 800 plantes pour pouvoir faire plein de choses. Mais voilà, les lobbies freinent du pied, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc voilà, ce que je voulais juste vous dire, c'est que là, je vous en parle toutes ces plantes en extrait fermenté, mais sachez qu'on peut les utiliser sur des macérations, des infusions, des décoctions, d'accord ? Il y a tellement de choses à faire sur des cataplasmes. Voilà, il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, je ne suis là que pour ça. Voilà. Après, voilà, si ce que ça intéresse, je fais de la formation pour apprendre à réaliser tout ça. Tous les autres, macération, infusion, décoction, des choses un petit peu plus poussées. Aujourd'hui, je ne suis que sur les extraits fermentés. Voilà. Mais sachez que voilà, c'est très très large et que vive les plantes. Hein. Je réponds à votre question, n'est-ce pas ? Période de ramassage. Alors, d'après vous, est-ce que c'est le matin ou le soir ? Bien, une bonne réponse pour madame. C'est le matin. Alors pourquoi le matin ? Alors ça correspond au mouvement de respiration de la terre. D'accord ? Le matin, la terre, elle expire. Ok ? Donc on est sur... Tous les principes actifs sont dans les feuilles. Le soir, la terre, elle inspire. D'accord ? Donc c'est le système racinaire. Tout est dans les racines le soir. Ça vous parle ? C'est bon ? C'est rentré dans votre tête ? Super. C'est pour ça qu'on se lève avant le soleil, on ramasse les plantes avant le soleil, parce que les ultraviolets détruisent une partie d'accord, des principes actifs. Ça, c'est très important. On essaye de avant qu'il fasse vraiment trop chaud. Donc voilà, 6h, 7h du mat, c'est bien. Voilà, on ramasse ces plantes à cette heure-là. Donc, en fait, voilà. Et voilà, tout ce que j'ai à vous dire là-dessus.
Bonjour, j'avais deux questions. Une sur la fougère. Donc là, c'est la fougère aigle. Oui. L'autre fougère, la mâle, femelle, je ne sais plus. Elle a des propriétés aussi proches ?
Après, je ne sais pas trop. Ouais. Je les connais, honnêtement, je ne les connais pas. Il y en a tellement, je ne les connais pas toutes. Mais honnêtement, on travaille avec celle-là parce que, comme je vous dis, elle est très chargée en silice. Ouais. Elle est bourrée de calcium. Voilà pourquoi on travaille avec celle-là. Quoi.
Parce que dans les fougères aux alentours, on en trouve deux.
Oui, voilà. Et l'autre. Vous avez la petite, ouais. La petite qui est au bord des ruisseaux, ouais. D'accord, qui va monter à pas plus de 40 cm, là, qui fait vraiment. Et la fougère aigle, elle, qui monte, on dirait un petit arbre, quoi, qui monte droite, là, et qui fait des grosses feuilles, celle-ci, donc. Voilà, on en trouve deux. Après, les propriétés de l'autre, je ne les ai pas étudiées. Voilà.
Juste une deuxième question.
Cette fougère basse, nous on l'utilise, on l'accueille, c'est maintenant, en même temps que l'apparition de la première cloque sur les pêchers, on met ça dans les arbres, ça fait plusieurs années et oui. Ça marche.
Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs concernant la cloque, quelque chose qui marche aussi bien, c'est que vous prenez du lierre frais. Alors je ne l'ai pas essayé, on me l'a dit, mais il faut, apparemment ça marche très bien. Vous prenez du lierre frais, vous l'entourez autour de vos pêchers. Et le lierre a des principes actifs qui empêche l'apparition de la cloque. Vous pouvez l'essayer. Je ne l'ai pas encore essayé. Je dois le faire. Là, mais... Oui. Il n'a pas eu le temps de poser sa deuxième question.
Juste, c'est pour compléter par rapport à la cloque. Je veux dire, quelque chose que tout le monde a, sont les coquilles d'œufs. Vous gardez les coquilles d'œufs que vous laissez. Nous, on met dans les filets au milieu des pêchers. Et on fait ça depuis des années. Et à chaque fois que la cloque apparaît, on renouvelle les coquilles d'œufs tous les ans. Et ça marche très bien. Enfin,
Après, il faut partir du principe. Attendez, je finis juste ça et vous posez votre question après. La cloque, donc, tout le monde le sait, c'est un champignon. D'accord. Le champignon, il va se propager. Par quel milieu ? Un milieu chaud, un milieu humide, un milieu chaud, sec, froid ? Alors, chaud et humide, on est d'accord. Donc, chaud et humide, c'est clair, là, il a beaucoup plu. À partir du moment où vous avez beaucoup de pluie, comme on dit, il fait un coup de soleil derrière, et beaucoup de pluie, un rayon de soleil, d'accord, la cloque, elle apparaît. À un moment donné, ça se régule. Les choses, quand même, arrivent à se réguler. Mes pêchers, à l'heure actuelle, ils ont attrapé la cloque. Je les ai traités à la décoction de prêle. Qui est très très bonne en fongicide. Par contre, ça, je vous le dis aussi. Voilà, mais là, on est sur de la décoction. Je ne vais pas vous la prendre aujourd'hui. Mais les prochaines feuilles qui arrivent ne sont pas cloquées. Mais voilà, c'est comme les pucerons. Les pucerons, c'est une période bien spécifique. C'est-à-dire que c'est au tout début du printemps, d'accord, parce que votre plante, elle est riche en azote. Le puceron est un régulateur d'azote. C'est pour ça qu'ils viennent piquer. Ils régulent l'azote. D'accord. Et il faut quand même avoir quelques pucerons si on veut avoir des coccinelles. Parce que pas de pucerons, pas de coccinelles. Pas de bras, pas de chocolat. Alors, c'est à qui ? Oui, pardon.
Une question plus basique sur la préparation. Donc, on met notre plante, les proportions, tout ça. On remue. Il y a les bulles. Quand il n'y a plus de bulles, c'est bon. Mais en fait, moi, j'ai constaté que normalement, il faut quoi, 10 jours, 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, j'ai continué à avoir des bulles. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça passe en putréfaction que je ne me suis pas rendu compte ou,
voilà. On y vient. À tout ça, on y vient. Je suis assis sur, le trésor là, que vous allez découvrir. Grâce à ça, vous allez savoir le faire avec 100% de réussite. D'accord. Et ce n'est pas une question de temps, l'extrait fermenté. Ce n'est pas une question de 1 jour, 10 jours. Si pendant 2 jours, il vous fait 45 degrés, en 2 jours, il est prêt. Hein, en 2 ou 3 jours. Hein. C'est clair, c'est recta. Voilà. Ce n'est pas une question de durée de temps. Ne vous mettez surtout pas ça dans la tête. C'est une question de température aussi. Hein. Voilà. Alors... les périodes d'utilisation des extraits fermentés. Donc, janvier-février, vous avez un minimum d'activité du sol. Donc là, ce n'est pas là où on utilise. Mai-juin, vous allez avoir un maximum d'activité du sol. C'est là où on va utiliser les extraits fermentés. D'accord ? Juillet-août, vous avez une baisse d'activité du sol. Donc, les extraits fermentés, ce n'est pas compliqué. Vous allez les utiliser mai-juin, septembre-octobre. OK ? Parce que quand il fait trop chaud, le végétal... Il a tout fermé. Son système hydrique, il est fermé. Il faut qu'il fasse une pluie pendant 2 ou 3 jours pour que tout le système hydrique se remette en route. Et comme vous allez le passer en foliaire, parce que soit vous le passez en racinaire, l'extrait fermenté, d'accord, avec un arrosoir, mais vous allez en manger beaucoup. Parce qu'un arrosoir, c'est une dilution à 1 litre pour 20 litres. Donc vous allez mettre un demi-litre dans un arrosoir de 10 litres, on est d'accord ? Donc si vous le mettez en arrosage au sol, vous allez en manger énormément de l'extrait fermenté, c'est clair. Par contre, il y a la deuxième solution, c'est passer en foliaire. Foliaire, ça va être au niveau des stomates, au niveau des poils absorbants qui sont sous la feuille. Donc, on retourne le pulvérisateur et on passe dessous. D'accord ? Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que juillet-août, donc, comme je disais, le système hydrique, il est fermé de vos végétaux. Il n'y a plus rien qui rentre. Et en plus de ça, vous allez être sur une feuille qui va être très vert foncé. On en a parlé tout à l'heure, hein, d'accord ? Où la moitié des poils absorbants seront déjà partis. D'accord ? Il y a une diminution des poils absorbants. Alors qu'au printemps, à l'heure actuelle, si vous analysez une feuille au microscope, vous allez voir dessous, c'est bourré de poils absorbants. Ils sont jeunes, ils sont tendres, ils sont frais. D'accord ? C'est par là que tous les matins, quand vous avez un petit peu de rosée, tous les végétaux captent l'humidité de l'air, d'accord ? Et c'est pour ça que, si vous regardez un pied de tomate, vous avez vu comme c'est velu, d'accord ? Tout ça, c'est des pôles absorbants. C'est le système par là où l'arbre peut récupérer l'eau. Il peut le récupérer par les racines, mais aussi par les pôles absorbants et par les stomates, d'accord ? Donc, toute cette petite humidité qu'il y a dans l'air, le pôle absorbant, il le récupère. Voilà, ça, c'est très important. Et donc, je vous dis juillet-août, pourquoi ? Parce que c'est fermé, donc là, on n'utilise pas d'extrait fermenté. Et ensuite, je vous ai vu. Et donc, ensuite, septembre-octobre, il va recommencer à faire un petit peu frais, d'accord ? Et là, vous allez pouvoir finir de redonner des extraits fermentés à vos végétaux pour les fortifier, pour qu'ils passent bien l'hiver, quoi. D'accord ? C'est bon pour tout le monde ? Alors, le micro.
Oui, c'est tout, hein. Le matin ou le soir pour...
Alors, le matin ou le soir. Alors, est-ce que vous étiez là quand j'ai parlé de... Non, alors vous n'étiez pas là. Alors, le matin, on est sur l'expiration de la terre, donc ça va être le matin, d'accord ? C'est très tôt le matin, voilà, ok ? Très tôt, avant le soleil, toujours pareil, parce que ces extraits fermentés vont être détruits avec les ultraviolets. D'accord ? À un moment donné, les principes actifs vont être détruits. Donc, faites-le assez tôt avant que le soleil arrive. Comme ça, ça laisse bien le temps à vos végétaux de les absorber. D'accord ? Voilà. Et le soir, en racinaire. Donc, le matin, en foliaire. Et le soir, on arrose en racinaire.
J'ai peut-être une autre question.
Oui.
Si jamais, c'est juste au niveau de la préparation. Est-ce qu'on peut mélanger plusieurs plantes dans la même préparation ou pas ?
Bien sûr. On peut faire un cake au chocolat, au raisin. On peut tout mettre dedans. Non, on peut tout mélanger. À partir du moment où vous allez mélanger vos plantes, vous allez récupérer tous les principes actifs de chaque plante. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on appelle ça les quatre mousquetaires. Alors à l'époque, les quatre mousquetaires, c'était prêle, fougère, ortie, consoude. Mais on s'est aperçu en fait que la prêle, elle était plus efficace en décoction et pas en extrait fermenté. Pas en purin. Voilà. Je dis purin de temps en temps pour faire les gens qui n'étaient pas là. D'accord ? Les purins, on a réappelé ça les extraits fermentés pour tous ceux qui n'étaient pas là au début. Voilà, donc bien entendu, mais oui, qui peut le plus, peut le moins. Hein. Voilà, c'est très, très important. Donc voilà, l'hygrométrie, comme je vous ai dit, entre 60 et 80 degrés, mais bon, on n'a pas tous la tête sur le baromètre. Hein. Voilà. Alors, la température en foliaire, donc si vous êtes inférieur à 10 degrés, pas de traitement. Ça ne sert à rien, il fait trop froid, l'arbre ne va pas prendre. D'accord ? Et au sol, c'est à partir de 12 degrés sur les 10 premiers centimètres. Ok ? Voilà, un arrosage racinaire. Le mode d'absorption des extraits fermentés. On va pouvoir utiliser, soit si on a des grands arbres, des atomiseurs à dos, d'accord ? C'est des atomiseurs avec un moteur, ça peut pousser à 16 mètres, d'accord ? Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, mais voilà. Vous allez envoyer ça carrément en haut de vos arbres fruitiers, ou même, vous pouvez donner à manger à vos arbres d'ornement, hein, ils ont le droit aussi. Donc, dès que vous voyez qu'en haut, en tête, ça commence à bouger, d'accord ? Vous arrivez à la limite du ruissellement, d'accord ? Il ne faut pas que ça ruisselle trop. Tac, là, c'est bon. L'arbre, il a pris. Voilà. Vous avez le petit pulvérisateur à dos. Voilà. Bon, après, arrosage, arrosoir. Ça, ce sont les principales choses avec lesquelles on peut se servir. Donc, moi, ce que j'ai fait aussi, ce que je fais quand un arbre est vraiment en carence... Un grand arbre, je parle, qui a vraiment, j'ai envie de vous dire, un houppier de plus de 10 mètres. Un houppier, voilà, le houppier, c'est toute la partie aérienne où c'est qu'il y a le feuillage. Un houppier de plus de 10 mètres de large. Là, moi, je travaille par perforation, d'accord ? J'ai une tarière, une tarière à moteur, si vous voulez, avec des mèches de cette grosseur. Là, je perfore le sol sur 10-15, pas plus. Parce que si vous descendez un peu plus, vous allez attraper le chevelu racinaire de l'arbre, d'accord ? Donc, pour vous faire simple... On va partir du principe que ça, c'est un arbre. OK ? Donc, je me mets à l'aplomb du houppier. L'aplomb du houppier, ici. OK ? Vous comprenez l'idée ? À l'aplomb du houppier. Hein. Surtout pas ici, parce que là, ça ne sert à rien du tout. Là, vous avez des grosses racines. Ce n'est pas elles qui absorbent. Hein. Ce qui absorbe, c'est le chevelu racinaire. C'est des toutes petites racines, comme des cheveux. D'accord ? C'est elles qui absorbent les liquides. Donc là, vous vous mettez à l'aplomb. Et là, vous faites des petits trous, là, tous les 20 cm. D'accord ? Vous faites, alors pour ceux que ça intéresse, j'ai des photos, bon, je devais vous les montrer, mais c'est pas grave. Vous faites un rond, vous faites plein de ronds, comme ça, avec plein de petits trous. Vous descendez pas à plus de 15, très très important, si c'est pour aller bousiller la racine, autant faire autrement, quoi. Et là, on va remplir l'arrosoir avec des extraits fermentés, et on va remplir tous les petits trous, ensuite on va remettre la terre, d'accord ? Et là, on est sûr qu'on va directement au cœur de la racine. Parce que parfois, on arrose, et puis ça fout le camp, ou quand on est sur des sols un peu compliqués, un peu compactés, voilà. Donc ça, c'est aussi un autre mode d'absorption. mode d'absorption des extraits fermentés aussi. Vous avez, celui-là il plaît énormément. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ça? Alors, c'est une petite boîte, vous allez voir. Voyez, regardez. Ouais, super, c'est gentil. Ils sont très gentils d'ailleurs, Albigès, hein, je sais plus le truc, mais il faut les écouter parce que... Alors voyez, à l'intérieur, vous avez une petite aiguille, ok? On va venir placer cette petite aiguille ici. On va faire un tout petit trou avec une mèche de 2 dans l'arbre. On va percer juste l'écorce. C'est sous l'écorce qu'il y a la circulation de sève, d'accord? Donc, on pique. Il y a une petite aiguille, elle est trouée. On pique, tac. Là, on va remplir nos extraits fermentés. Hop, on remet le couvercle, d'accord? Et là, on va laisser ça sur l'arbre. Ça, ce sont les arbres qui ont du mal à, s'alimenter en foliaire et en racinaire. Donc, le seul moyen, c'est de passer, comme nous, les êtres humains, par perfusion. Enfin, en même temps, on ne nous a jamais arrosé les pieds et jamais donné à manger par les cheveux. Si, peut-être madame, non? Non plus. Voilà. Donc, oui, allez-y.
Où est-ce qu'on le trouve, ce petit...
Alors, bon, voilà, ça, c'est Eric Petiot. Je ne sais pas si ça parle à des personnes. J'ai fait beaucoup de formations avec lui. On a même écrit un morceau de musique qui s'appelle La Rappe de l'Ortie. Pour ceux que ça intéresse, il est sur Internet. Ce morceau, voilà, on a écrit un morceau de musique ensemble pour un petit peu mettre en avant les préparations naturelles peu préoccupantes.
Si tu rappes de l'ortie, sache que c'est interdit. Les temps d'attaque, de plaque, d'attache. Mais t'inquiète pas, mémé, si tu rappes de l'ortie, tu es dans les lois de la vie. Traités aux molécules à la con, ils sèment la mort, leur produit à tête de mort. Mais c'est autorisé, mémé, tout est homologué pour la panoplie du jardinier. Si tu te sers de l'ortie, tu agis contre la patrie. Certains flippés préfèrent les utiliser. Courgettes et potirons, ils sont tous des moutons tendus avant la saison. Marqué sur le bidon. Monsanto et Bayer, Syngenta et l'État, Orita midi pour manger du coq en pays. Monsanto et Bayer, Syngenta et l'État, Orita midi pour désinguer la ortie. L'État s'occupe de ta santé, il faut pulvériser dans les boutiques spécialisées qui te prennent ton blé. L'hôpital d'à côté t'attend du bon pied, ton lit est déjà réservé. Mais à force de parler, le temps s'est égrené. Concombres et navets sont prêts à être récoltés. J'ai la vision de deux bombes à neutrons au fond de mon panier qui n'avait rien demandé. Monsanto et Bayer, Syngenta et l'État, Orita midi pour manger du coq en pays. Monsanto et Bayer, Syngenta et l'État, Orita midi pour désinguer l'ortie. De face puis de profil, puis tu courbes les chines. Mais n'oublions jamais mémé qu'au cœur de la machine, la jeunesse peut se révolter à grands coups de macération ou d'extrait fermenté. Tu produis mais tu détruis, est-ce que c'est ça la vie? Dans le fond des yeux de ton gamin, est-ce que tu vois demain? J'ai envie de te parler mémé, rappelle-moi le temps passé. Passer à t'écouter, me parler de l'ordi. Non, 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 non. Monsanto et Bayer, Syngenta et l'État, Orita midi pour manger du coq en pays. Monsanto et Bayer, Syngenta et l'État, Orita midi pour désinguer. Monsanto et Bayer, Syngenta et l'État, Orita.
De retour sur Radio Albigès et après cette petite pause musicale, on retourne avec Thomas Braille, auteur et interprète du morceau qu'on vient d'entendre, mais également conférencier, puisque c'est lui qui nous présente cette conférence atelier sur les extraits végétaux fermentés, comme par exemple le plus connu, le purin d'ortie. On écoute la suite de cette conférence enregistrée le 21 mai 2018 à la foire Biocibelle de Groyer.
Vos extraits fermentés, vous pouvez les utiliser aussi en cataplasme. Alors, cataplasme, je vais vous donner la recette, tiens, parce qu'on va pas, ça sera vite fait. Alors, vous allez faire les cataplasmes, c'est intéressant sur vos arbres fruitiers, parce qu'il faut savoir que l'hiver, vous avez tous vos pucerons qui vont se loger sur votre tronc, d'accord ? En forme hivernante, ils vont se loger sur votre tronc, et puis dès qu'il va faire beau, tac, tac, ils vont ressortir. Et ils vont, voilà. Donc le cataplasme, c'est un bon moyen de nourrir votre arbre, de lutter contre ces indésirables qui sont sur votre tronc. Et voilà, et de protéger aussi, ça fait comme une espèce de protection, puisqu'on va travailler avec de l'argile blanche. Le blanc reflète la chaleur, ça évite d'avoir des écorces parfois qui éclatent. On appelle ça des échaudures. Vous avez déjà dû voir ça, notamment sur des parkings, par exemple, où il y a de la sabline. La sabline, c'est une espèce de... C'est comme du gravier. C'est pas un gravier, c'est comme un sable qui est ocre, mais qui tire pas mal vers le blanc. Et notamment sur les terrains de boule, les terrains de pétanque, vous avez cette espèce de sabline. Et parfois, il y a les arbres, ils ont ça au pied. Ils l'ont jamais eu, d'accord ? On fait le parking, et à un moment donné, ben, le soleil tape sur la sabline, d'accord ? Ça reflète sur l'écorce. Et en fait, ça vous fend l'écorce sur... Ça peut vous la fendre sur un mètre. En fait, l'écorce éclate, car elle a trop chaud. On appelait ça voilà, des échaudures. Donc si vous mettez aussi ce cataplasme sur votre tronc, ça évite notamment les échaudures. Alors en cataplasme, 50% d'argile blanche, 50% de bouse de vache bio. Vous allez peut-être vous marrer parce qu'on est dans un truc bio ici, mais c'est une réalité. Les vaches, celles qui sont piquées aux antibiotiques, hein, on va y arriver. Bon, enfin, en même temps, elles sont piquées aux pesticides avec ce qu'elles bouffent aussi, mais bon, bref. Pardon. Et du coup, voilà, bouse de vache bio. Parce qu'il faut savoir que les bouses de vache ne se désintègrent plus de nos jours. Vous pouvez jouer au frisbee dans un champ avec une bouse de vache. Il n'y a plus de micro-organismes qui les attaquent. Il y a tellement de produits à l'intérieur. Donc, bouse de vache bio. Et ensuite, vous allez délayer le tout avec de l'extrait fermenté d'ortie. Donc là, vous faites un beau badigeon que vous allez passer avec un pinceau. Hop. Voilà. Et le micro-organisme de la bouse de vache, l'arbre va les récupérer par ce qu'on appelle les lenticelles. Les lenticelles, chaque fois qu'un arbre grossit, au printemps, d'accord, son écorce se fend. Mais vous ne le voyez pas, heureusement. Ce sont des minuscules fentes. Parce que l'arbre respire par l'écorce aussi. Il y a des échanges gazeux, d'accord. Donc, à partir du moment où il reprend sa croissance, chaque année, l'arbre, par les lenticelles, il respire. Donc quand vous allez mettre ces cataplasmes, ça va rentrer à l'intérieur, ça va lui permettre de se nourrir et de pouvoir aussi se défendre. Voilà. Et les extraits fermentés sont très très bons aussi pour une chose qui s'appelle la mélanisation. Alors la mélanisation, c'est quoi ? Vous avez peut-être des haies chez vous, d'accord ? Vous sortez les tailles haies. Bon, je ne suis pas fan parce que ça fait des blessures, ça mâche. La plupart du temps, on n'aiguise pas bien nos lames. Peut-être que parfois, ça fait 3-4 ans qu'on n'a pas aiguisé nos lames, et puis on se retrouve avec des outils. T'es madame, regarde monsieur. Là, c'est du vécu, par contre. Voilà, c'est bon, là, je les ai repérés. Et donc, vous avez des feuilles, par exemple, des feuilles de Prunus lauroserasus, ce qu'on appelle plus vulgairement la laurine. Vous avez les feuilles de laurine qui sont complètement mâchées. D'accord ? Vous allez observer au bout de 2-3 jours, ou plus, vous allez avoir une espèce, ce qu'on appelle la mélanisation, c'est-à-dire que les feuilles qui ont été mâchées, les endroits qui ont été mâchés, vous avez une espèce de petite pellicule marron qui s'est mise en place. Vous avez déjà remarqué ça ou non ? Vous regarderez. D'ailleurs, on peut aller faire un tour après, si certains ça intéresse, je vous montrerai ce que c'est. Et en fait, ça, ce sont les phénols qui sont arrivés. Les phénols, on en a parlé tout à l'heure, terpènes, phénols, ce sont les substances antioxydantes, d'accord ? Ce sont des substances qui arrivent, tac, pour bloquer toute entrée de maladie. Ok ? Donc, si vous passez des extraits fermentés sur votre haie, une fois que vous avez taillé votre haie, eh bien, vous allez accélérer la mélanisation. C'est-à-dire que ça va, les phénols vont arriver plus vite. On va renforcer la plante, on va vite lui donner à manger. D'accord ? Parce qu'une plante ne peut pas croître et se défendre en même temps. Mettez-vous bien ça dans la tête. Quand une plante est agressée, elle a dépensé une partie de ses sucres, d'accord, pour se défendre. Mais elle a arrêté sa croissance. Vous avez des arbres très certainement dans votre jardin qui sont en souffrance permanente, qui sont toujours en train de lutter, de se défendre, de lutter, de se défendre. Eh bien, ils ne poussent pas. Oh, chérie, cet arbre, il ne pousse pas. Mais ouais, c'est une réalité. Mais par contre, si un arbre il va bien, que vous lui donnez tous les atouts pour arriver à croître, que vous lui donnez les petites vitamines, vos extraits fermentés, vos machins et tout, il va être super fort, il se fait attaquer. Il arrive à se défendre, hop, une fois qu'il s'est défendu, on redonne encore un coup d'extrait fermenté pour rembourser l'empreinte des sucres, d'accord, qu'il a utilisé pour se défendre, et il continue sa croissance. Mais si vous aidez pas vos végétaux, à un moment donné, ils arrêtent leur croissance. Donc, une plante, je le répète, ne peut pas croître et se défendre en même temps. Elle fait l'un ou l'autre. Et maintenant, à vos cahiers. Allez, je vais vous montrer un petit peu. On va arrêter de parler parce qu'il y en a marre. Enfin, pas. Non, je vais parler, mais je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors.
Alors, je vais essayer de décrire pour la radio. Donc, une pompe à vélo, une chambre à air.
Alors, voilà de quoi est composé cette fameuse poubelle, n'est-ce pas ? Donc, c'est ni plus ni moins qu'une poubelle que vous pouvez trouver n'importe où, dans n'importe quel magasin de bricolage. Une poubelle à 3 francs 6 sous. Moi, le but, c'est que ça vous coûte pas cher. Et ça, une fois que vous l'avez fait, vous l'avez à vie. D'accord ? Avec une poubelle comme ça, vous avez, en dilution, vous avez 1600 litres d'extrait fermenté. En dilution. Là, on est parti sur, vous allez avoir une 70 et 80 litres d'extrait fermenté, d'accord ? Et en dilution, un vingtième, vous allez être sur du 1600 litres. C'est énorme. Avec une poubelle comme ça, vous faites toute la saison dans votre potager. Voilà. Petit robinet, quart de tour, tout simple, on perce en bas, d'accord, à une certaine hauteur, petit robinet, quart de tour. Hop, un petit coup à 90 pour éviter que ça nous arrive directement dans les chaussures. Et qu'on se fasse allumer à la maison, parce que quand vous arrivez avec du purin d'ortie sur les orteils, à mon avis, vous mangez ni dedans ni dehors, vous mangez chez le voisin, d'accord ? Non, mais je le dis parce que, voilà. Alors, un bon purin d'ortie sent vulgairement la pisse de vache, d'accord ? Si ça sent autre chose, c'est que là, c'est pas bon, quoi. Mais la pisse de vache, ça sent pas mauvais, honnêtement, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans cette... Alors, attendez, je repasse de l'autre côté. J'ai un assistant de malade. Je ne le paye pas très cher, mais il est sympa. Alors, important. Donc, on va travailler avec soit de l'eau de pluie, soit de l'eau de puits. Alors, quelqu'un peut répondre à ça ? Pourquoi ces deux eaux ? Pas de chlore, voilà. Pas de chlore, pas d'autres, du Javel ou j'en sais rien, tous ces trucs-là. Il faut savoir une chose, c'est que l'eau qu'on boit chez nous, dans notre robinet, on appelle ça, c'est de l'eau morte. Ni plus ni moins. Elle ne nous apporte que dalle. Juste le fait de ne pas se déshydrater. En termes d'oligo-éléments, de minéraux et d'acides aminés, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, ce que je vous ai dit, ce dont une plante a besoin pour se développer, ce sont ces trois facteurs qui normalement se trouvent dans l'eau. L'eau que vous avez chez vous, quand vous ouvrez votre robinet, elle est morte. Donc en plus de ça, le chlore est un capteur d'électrons. D'accord ? Alors pourquoi je parle des électrons ? Parce que pour arriver à trouver l'homéostasie, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est le monde du vivant, d'accord ? C'est les êtres humains, les végétaux, les animaux. On est en échange permanent d'électrons, d'accord ? Pour trouver l'équilibre parfait, ça s'appelle l'homéostasie, cet équilibre parfait. L'équilibre parfait entre l'oxygène et l'hydrogène. Ok ? C'est un peu compliqué, là. Je vais pas trop vous endormir avec ça, d'accord ? Mais, donc, cette eau, très, très important. Donc, essayez de mettre le maximum de récupérateurs d'eau chez vous. Hein ? C'est très, très... Enfin, voilà, c'est... Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un puits, mais vous avez toujours une chauneau chez vous dans un angle de la maison, vous mettez un petit récupérateur d'eau et pour donner à vos plantes d'intérieur, voilà, elles vont vous remercier, quoi. Parce que l'autre eau, elle n'apporte rien de rien de rien de rien. D'accord ? Qui plus est, cette eau-là, elle a perdu tous ces éléments qu'elle avait dans la nature. D'accord ? Alors là, je vais vous faire quelque chose qui est assez sympathique et que je me régale à faire à chaque fois. Voilà. Tout le monde ne voit pas, si. Voilà, regardez. Voilà, ça, on appelle ça un vortex. Bien joué. Il y en a qui l'ont dit, c'est très bien. Alors, quand je fais ça, vous avez déjà entendu parler de la biodynamie, d'accord ? On dynamise l'eau. Alors, on dynamise l'eau, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, l'eau qui est dans une cuve, elle va perdre ses propriétés qu'elle avait à l'état naturel, d'accord ? Et là, quand je fais tourner, quand je fais un vortex dans mon eau, je casse les molécules d'H2O. Je les casse. Et si je le fais assez longtemps, pendant 5-10 minutes, d'accord, je vais redonner toutes les propriétés à l'eau qu'elle avait à l'état naturel. Et ça a été prouvé par des grands chercheurs, d'accord. C'est une réalité. Si on crée des vortex dans de l'eau, on lui fait retrouver ses propriétés qu'elle avait à l'état naturel. L'eau a une mémoire. Voilà, je ne l'ai pas inventé. Donc pour ceux qui sont sceptiques et qui ne me croient pas, comme monsieur, je le vois là-bas, encore lui. Alors vous regarderez un film qui s'appelle Water, d'accord ? Ça veut dire eau en anglais. Et vous verrez, il y a plusieurs chercheurs du monde entier qui ont travaillé sur l'eau. L'eau a une mémoire. Ils se sont amusés à mettre plusieurs verres d'eau, d'accord, sur une table. Et ils ont dit des choses, des mauvaises pensées à une eau. Elle est capable même de capter les pensées, des mauvaises choses à une eau et des bonnes choses à l'autre eau. Ils ont fait une congélation à moins 180 degrés à l'azote liquide instantanément, d'accord. Tous les verres auxquels on a dit des mauvaises choses, on se retrouvait avec des formes complètement bizarres. On aurait même dit des têtes de mort. Alors qu'à droite, est-ce que vous avez déjà regardé un flocon de neige ou la neige? Vous avez vu les petits cristaux qu'il y a dedans? C'est des cristaux qui sont très, très symétriques, hein, d'accord ? Eh bien, toute l'autre eau, c'était que des beaux cristaux comme ça. Et ils ont fait écouter du hard rock, c'était des cristaux, c'était tout tordu. Ils ont fait écouter de la musique classique, hein, c'était des beaux cristaux. Voilà. Mais vous regarderez ce film, moi, ça m'a retourné le cerveau. Voilà. C'est quand même intéressant de le savoir.
Moi, je récupère de l'eau de pluie. Alors, dans l'arrosoir, alors, il faut donner 4 coups de bâton pour redonner...
Alors, je vous le refais. Regardez, oui, mais... si vous avez une perceuse... Ouais, Non, mais ça coûte rien.
Hein, c'est l'électricité aussi.
Non, c'est à batterie. Enfin, une petite perceuse. Si vous êtes loin, regardez, vous investissez là-dedans, ça vous coûte que dalle, et vous aurez forcément un trou à faire dans la maison.
À chaque fois qu'on arrose, qu'on prend l'eau de pluie dans notre récupérateur d'eau, il faudrait la tourner comme ça.
Dans votre arrosoir, avant de mettre votre essai fermenté, vous faites tourner avec ce système-là.
Ah, fermenté, mais si c'est que de l'eau de pluie, c'est pas la peine.
Non, dans votre arrosoir, vous mettez votre eau de pluie,
oui.
Et ensuite vous allez mettre votre extrait fermenté.
D'accord.
Okay. Et après vous dynamisez avant de donner aux végétaux. Donc par contre, là je vous l'ai montré dans un sens, d'accord, le vortex. Mais ce qu'on va faire, on le fait tourner dans un sens, ensuite on inverse la perceuse, et là on va créer le chaos, d'accord. Pareil. Regardez ce qui se passe. Hop, je fais tourner la perceuse une fois dans un sens, une fois dans l'autre. En fait, on fait un chaos, ce qu'on appelle un chaos. D'accord. C'est là où on casse les molécules d'H2O. C'est pas que dans un sens, c'est dans les deux. D'accord ? Voilà, c'est très très important. Et là, de toute façon, il y a des résultats en biodynamie. Ils ont fait la moitié d'un champ en vigne avec de l'eau dynamisée et de l'eau qui n'est pas dynamisée. Le goût du raisin, c'était pas le même. Ils ont donné ça à des testeurs de vin. Ils ont dit, ah, ce vin, il est meilleur. Mais en fait, c'était la même parcelle. Hein. Sauf qu'il y en a une qui a été travaillée en biodynamie et l'autre non. Voilà. Alors, pour information aussi, dans votre récupérateur d'eau, pensez à mettre une cuillère en argent, d'accord ? Parce que l'argent va vous permettre de tuer les bactéries qui se trouvent dans l'eau, dans cette eau, d'accord ? Donc vous avez une vieille cuillère en argent de mamie là, vous savez le service qu'il faut brosser tous les dimanches parce que ça. Hop, vous prenez tous les week-ends une petite cuillère. Voilà, si vous achetez des cuves, vous videz ce fameux où on se sert plus finalement, on n'y mange plus. Hein. Non, c'est très important, voilà. Je vous l'ai dit, c'est un petit détail, mais voilà, ça peut être bien de mettre ça dans des grosses cuves de 1000 litres, là. Voilà, vous mettez un couvert en argent et c'est parfait. Alors, donc, cette eau. Alors, l'eau, aussi très important, ce qu'il vous faut faire, c'est regarder la température de l'eau que vous allez mettre. Oui, allez-y, monsieur, pardon.
Moi, j'ai une question par rapport... Enfin, je me pose des questions sur la qualité de l'eau de pluie et ce qu'elle porte, parce que les toits... sont exposés à la pollution,
oui.
Soit des gaz d'échappement, soit les pesticides quand on est en zone agricole. Et j'ai des doutes sur la qualité de l'eau de pluie.
D'accord. Alors, c'est pas faux. Si vous avez un toit amianté, ne mettez pas de récupérateur d'eau, déjà. On est d'accord ? Ok. Si vous avez un toit en tôle, vous faites bien de dire ça, ça me lance sur le sujet. Si vous avez un toit en tôle, galvanisé de l'époque, où c'est qu'il y a des parties de rouille un petit peu de partout, ne mettez pas de récupérateur d'eau. Votre eau, elle va être ferreuse, d'accord ? Le fer, c'est un oxydant. Si vous récupérez l'eau dans des cuves en fer, vous allez avoir un extrait fermenté qui va être oxydé, d'accord ? Donc soit c'est des cuves en plastique, soit c'est des cuves en je sais pas quoi. Bon, enfin, en tout cas, voilà, c'est les grosses. Moi, je travaille avec ces grosses cuves-là. Ensuite, concernant l'eau de pluie, il est vrai que tout ce qui est pesticides, il y a une partie qui s'infiltre, mais forcément, il y a une partie qui s'évapore. Donc, on va retrouver des pesticides dans les nuages. Mais quoi qu'il en soit, cette eau, elle aura quand même coulé dans des ruisseaux. Elle se sera infiltrée, elle sera ressortie à des endroits. Elle est déjà plus propre qu'une eau que vous allez... que l'eau du robinet, déjà, donc, qui est pauvre en tous ces éléments-là. Vous ne les avez pas. Peut-être, certes, vous aurez des défauts concernant peut-être des résidus de pesticides. Mais de toute façon, des pesticides, il y en a partout. Je suis désolé de vous le dire, hein, je ne vous apprends rien, ce n'est pas nouveau, c'est une la palissade, mais des pesticides, il y en a partout.
Il faut juste essayer de réfléchir. Alors, l'eau d'un puits, bien évidemment, c'est la plus propre. Parce qu'elle est en profondeur, elle a été lavée par le sol, d'accord, avant que ça pénètre au fond. Tout ça, c'est l'eau qui est la plus propre. Mais parfois, on n'a pas l'occasion d'avoir un puits, donc les récupérateurs d'eau, c'est très bien. Moi, ce qui m'importe, c'est de récupérer les oligo-éléments, les acides aminés, les minéraux, voilà, qui sont dans cette eau. Bonne question. J'ai répondu à votre question quand même. Voilà, en partie, hein. Mais après, vous savez, je ne peux pas vous dire qu'une eau, elle est propre. Plus aucune eau sur la Terre n'est propre. Il y a 97,7% d'eau de mer. Tout le reste, c'est de l'eau salée, de l'eau claire, je veux dire, de l'eau douce. Vous voyez, c'est si peu. Et cette eau-là, elle n'est pas propre, quoi. Voilà.
J'avais une question sur, par rapport à pas mal de gens qui habitent en ville, en appartement, qui n'ont pas de récupérateur d'eau. Si on fait avec l'eau du robinet, est-ce que ça vaut quand même, est-ce que c'est quand même intéressant ou vaudrait mieux rien faire ?
Je pense que le mieux, c'est de la faire bouillir. Voilà, si vous la faites bouillir, vous faites évaporer une partie de ces produits style chlore, javel. Voilà. Vous pouvez la faire bouillir. C'est une solution. Après, oui, bien sûr, hein, tout le monde ne vit pas à la campagne. Tout le monde n'a pas de récupérateur d'eau, quoi. OK ? Donc voilà, cette eau, donc je répète, oui, question.
En fait, c'était une remarque par rapport aux eaux de pluie. Les gens qui boivent l'eau de pluie, ils mettent en place un système de bascule ou bien on peut avoir un robinet pour couper l'arrivée d'eau de pluie dans le réceptacle la première demi-heure ou la première heure. Ça fait surtout que les métaux lourds qui sont dans l'air sont déjà plaqués au sol et seulement après on le récup. Et pour l'eau chlorée, on m'a dit que le chlore il s'évaporait, qu'il n'y avait pas besoin de le laisser, de le faire bouillir, mais par contre il fallait attendre.
Oui. Mais mais tout à fait, vous avez raison, mais c'est bien, mais je suis content moi qu'il y ait des intervenants, hein. Moi j'en apprends tous les jours aussi. Non, mais vous avez raison, après le fait de le faire bouillir ça va beaucoup plus vite, c'est sûr. Bon, après on dégage, si on fait sur le gaz, on dégage de la chaleur, bon, tout est relatif. Mais bien entendu, ce que je voulais vous dire par rapport, je sais plus, merde, ça m'est parti, ça me reviendra peut-être. Bon, bref. Donc surtout, vous mettez de l'eau minimum, il faut qu'elle fasse 12 degrés, d'accord, votre eau, parce qu'en dessous de 12 degrés, vous allez augmenter votre pH. Alors pH, ça vous parle, proton hydrogène, ça vous potentiel hydrogène, ça vous parle, d'accord, le pH, d'accord, vous avez alcalin acide. D'accord. Nous, on va plutôt travailler vers l'acidité plutôt que l'alcalin. Parce que le paramètre donc alcalin oxydé, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est 80% d'indésirables. D'accord. Quand vous avez des champignons, quand vous avez des insectes, sur des pucerons, des cochenilles, ce que vous voulez, c'est que vous êtes sur un paramètre alcalin oxydé. Votre végétal est sur un paramètre alcalin oxydé. D'accord. Donc, nous, on travaille sur l'acide réduit. Voilà. Tout ça, c'est... Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, alors, ensuite, je repasse de l'autre côté. Donc, ce que l'on va faire par la suite. Alors, vous allez mettre, donc, votre eau que vous avez dynamisée. Hein, je me répète, mais c'est important. Vous allez mettre au fond de votre cuve... Juste en dessus du robinet, hein, d'accord. Donc si je le montre ici, le filtre il va arriver là, d'accord. Sinon ça sert à rien. L'idée c'est de ne pas avoir comme à l'époque. Moi quand j'ai débuté, hein, j'avais ces mêmes bassines, d'accord. J'avais ces mêmes bassines, j'en avais 18 ou 20, d'accord. Donc je vous dis pas les kilos d'ortie que je ramenais. Et là quand je commençais, j'avais 3 bassines qui prenaient en fermentation. J'avais de la mousse et les autres. Je vous dis pas, quand vous allez ramasser 80 kilos d'ortie ou 100 kilos d'ortie, vous avez un peu, voilà. Hein. Donc en fait, et avant, ce que je faisais, donc, c'est que j'avais une autre poubelle là, dessous, avec dessus j'avais un t-shirt, et là j'ouvrais. Et mais là ça durait 2 jours, la filtration. Là j'en pouvais plus. Alors je revenais, puis je rouvrais un peu, 3 gouttes. Hein. Puis à un moment donné, ça faisait un amas. Dans le t-shirt, au fond du t-shirt, ça faisait un amas d'ortie. On aurait dit du caviar d'ortie, là, c'était une espèce de petite soupe fine, là, miam. Et du coup, voilà, et j'y mettais 3 plombs, mais c'était pas possible. Donc là, en fait, ce que vous faites avec ça, vous réduisez le temps, d'accord. Les plantes, elles vont être posées dessus, vous allez ouvrir votre robinet, ça va filtrer direct, vous récupérez votre extrait fermenté dans vos bidons, et là, vous n'avez pas de petites particules. Parce que le problème, c'est que si vous avez des petites particules d'ortie, ne serait-ce que très fines, et que vous avez un peu d'air dans votre bidon, vous avez des refermentations qui peuvent partir. Vous avez déjà vu des bidons d'ortie qui gonflent comme ça? Ben, restez pas trop à côté, le jour où ils éclatent. Ouais. Ah, ah. Madame, ça fait peur aux petits, ça.
Non, mais c'est une réalité. C'est des bidons d'ortie qui gonflent parce qu'il y a une refermentation. Donc, moins il y a petits résidus d'ortie ou autres, hein, ou de bardane ou de fougères, et moins vous réduisez, et plus vous réduisez, voilà. Donc, on va mettre ça au fond. Alors, à l'époque, on disait, ouais, il faut hacher, machin, tac, tac, ça sert à rien. Moi, j'hache pas du tout mes végétaux. Je les prends, je les mets dedans. OK, donc après, on va mettre ces végétaux. Moi, je mets un petit caillou dessus. Alors, on presse quand même bien, hein, pour qu'elles prennent bien l'eau. Tac, on appuie sur les végétaux, on appuie. Après, moi, comme c'est sur des... Enfin, ouais, je fais sur des gros contenants qui sont plus de 300 litres. Donc, je mets un caillou quand même dessus, voilà, pour que ça les fasse descendre un petit peu. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est que vous allez mettre votre eau, vos végétaux, elle va remonter, d'accord ? Ça va un petit peu couler sur le côté, mais c'est très bien. Je vous explique pourquoi. Parce qu'ensuite, ce que vous allez faire, juste avant, j'avais oublié ça, vous allez mettre ça dans le sol, c'est une barre de cuivre, hein, d'accord ? Vous allez la planter dans le sol. Vous allez dénuder un fil de cuivre que vous allez raccrocher à cette barre, un fil électrique tout simple, hein, d'accord ? Ce fil électrique, vous allez le dénuder ici, sur toute la longueur de la bassine, ok ? Toute la longueur de la bassine. Là, vous allez le mettre à l'intérieur comme ça et vous allez le faire plonger jusqu'au fond. Alors ça, c'est pour travailler sur le redox. Donc ce qu'on appelait tout à l'heure l'oxydoréduction, d'accord, l'oxygène, d'accord. C'est pour faire baisser le redox. Voilà, c'est pour éviter que votre produit soit trop oxydé, trop d'oxygène, on brûle le végétal. Si je vous fais faire un sprint là, sur 200 mètres, là, que je vous dis par exemple n'importe qui, vous monsieur, là, allez courir, là, hop, plein pouce jusqu'à là-bas, à partir d'un certain âge, si on ne fait pas du footing tous les matins, on va arriver au fond, on va faire rentrer énormément d'oxygène, et en fait on va brûler nos tissus. Parce que l'oxygène, ça brûle, d'accord, on appelle ça des radicaux libres. Donc l'idée, c'est de faire baisser le redox. Le redox, c'est l'oxydoréduction, de baisser l'oxydoréduction, pour éviter que votre produit soit trop oxydé. Ok, c'est pour ça qu'on met cette petite tige qui est plantée dans la terre. D'accord ? Voilà, c'est un peu technique, mais voilà. Vous allez ensuite poser une bâche, d'accord ? Comme ça, un plastique assez fin, d'accord ? Qui soit très très fin, vous allez comprendre pourquoi après. On va faire un petit trou au cutter juste ici, là. Voilà, tac, un tout petit trou, là, juste pour le dégazage. Ok ? Donc on met ce petit trou au milieu. Après, il ne faut pas qu'elle soit trouée ailleurs. Hein. Juste sur le milieu, là. Voilà, vous le mettez comme ça. On va mettre le couvercle flottant. Là, du coup, l'intérêt que l'eau soit un petit peu haute, c'est que quand on va appuyer, l'eau va déborder. Ça déborde, on appuie, ça déborde, Allez, j'arrête là, c'est bon. Hop ! Voilà. Et là, on va prendre sa petite chambre à air de vélo. Alors, on ne démonte pas le pneu du voisin ou si sa femme, on ne lui prend pas sa roue. On va en acheter un. D'accord ? C'est important. On le met là. Donc, on essaye de repérer, bien entendu, une chambre à air. Déjà, quand vous la posez, qui fasse à peu près le diamètre de votre bassine. D'accord ? Et ensuite, hop, on va pomper, on va gonfler. Et ce qu'elle va faire, c'est que la chambre à air, en se gonflant, elle va plaquer le plastique contre le bord. D'accord ? Et là, vous êtes hermétique. Et là, on est en milieu endogène. OK ? On est en milieu endogène. Pas d'oxygène à l'intérieur. OK ? Là, ce qu'on fait, on va mettre un caillou ici, posé, parce que lui, là, dès que ça va partir en fermentation dessous, si vous ne mettez pas un gros caillou, là, pouf ! D'accord ? On met un gros caillou qui fasse l'épaisseur posée sur le couvercle, juste ici, d'accord ? Pour ne pas déformer celui-là. On va poser celui-là, d'accord ? Voilà, donc en fait, ça vous fait un caillou qui va vous faire une épaisseur de à peu près ça, entre là et le couvercle flottant dessous. Et là, on va remettre un gros bloc de maçon aussi. Pour encore appuyer, même plus. Mettez-en deux, même. Parce que je peux vous assurer que quand ça fermente. Quoi. Donc le but, c'est de ne pas le rater et que ça ne parte pas. On est d'accord. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est comme on disait, c'est pas une question de jour, c'est une question de chaleur, tout simplement. Oui, allez-y.
Pardon, s'il y avait juste le couvercle, ça, ouais. qu'est-ce que ça irait pas ?
Alors là, on empêche la lumière de rentrer.
Mais s'il y a juste le couvercle, il n'y a pas la lumière.
Si, parce que c'est du polycarbonate alvéolé.
Le couvercle noir, s'il y avait juste le couvercle noir, si on ne mettait pas le plastique.
Parce que vous êtes pas hermétique ? Ça, c'est pas hermétique. Hein. C'est juste.
Il faut vraiment que ça soit hermétique.
Ah ouais, non, mais ouais. Si je fais ça, regardez là, l'air y passe. Hein.
Là, ça passe. Ah oui, avec le petit trou, ça indique qu'il faut qu'il passe quand même l'air, non ?
Oui, dans des proportions infimes. Il faut que, en fait, non. Comment je vous ai. C'est du dégazage. C'est pas de l'air qui rentre, c'est de l'air qui sort. Donc ça, on s'en fiche. Voyez ce que je voulais dire ? C'est juste ça, quoi. C'est de l'air qui sort, mais ça ne peut pas rentrer. Voilà. Et donc là, le fait qu'il soit noir, c'est parce que mon polycarbonate alvéolé est transparent. Surtout pas de lumière. Vous allez tuer les principes actifs des plantes si ça prend les ultraviolets. Si, pardon, excusez-moi, lui il est percé, oui je ne vous l'ai pas dit. Excusez-moi, c'est pour ça que celui-là est percé. Vous avez juste un petit trou ici. Oh, heureusement que vous êtes là quand même. À chaque conférence, il est là pour me dire, le petit trou, il n'est pas percé. Il est bien lui. Voilà, ok. Voilà, un petit trou ici. Voilà, et à l'époque, voilà, moi ce que je faisais, ben, regardez, c'est pas compliqué. À l'époque, moi j'avais juste fait un trou là, j'avais fait comme vous aviez dit, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas en fait. Non, c'est surtout que ce n'était pas milieu fermé. C'était pas milieu fermé puisque j'avais tout ça d'air déjà et l'air il pouvait rentrer. Il n'y avait pas du tout cette floraison du couvercle sur l'eau. C'est celui-là qui affleure sur l'eau. Parce que là vous avez l'eau qui est carrément dessous. Il y a plus de bulles derrière, rien quoi. Ok ? C'est bon ?
Mais question.
Dites-moi.
En début d'exposé, vous avez dit il faut remuer tous les jours le.
Ça c'était avant.
Ah, maintenant.
Mais maintenant, bon, comme d'accord. Vous êtes intelligent, vous ne le referez plus.
D'accord.
Vous voyez, c'est ça. Ça, c'était avant. Quand je disais avant, alors soit les gens, ils prenaient l'ortie, les mettaient dans l'eau, ils partaient 15 jours. Ah tiens, il est prêt le pudding. En avant, Michel. Et non. Et par contre, ou sinon, il y en avait qui le remuaient et qui arrivaient à partir en fermentation. Mais c'est pas évident. Tous les jours j'étais, je remuais les bulles, la température elle était là. Mais si vraiment il fait froid pendant quelques temps, eh ben, vous avez beau remuer, s'il n'y a pas de chaleur, si ça ne part pas en fermentation, c'est pas que vous ne pouvez pas les réussir. C'est-à-dire, c'est juste que vous n'avez pas 100% de réussite. Voilà. Mais vous pouvez réussir une poubelle comme vous pouvez pas la réussir, quoi. C'est, voilà, comme je vous disais, moi j'en avais 20. Sur les 20, parfois j'avais 4 poubelles qui prenaient. Tous les jours je remuais. Eh bien, y en avait, les autres ne prenaient pas, quoi. Voilà. OK ? Donc là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, au bout de quelques jours, suivant la température, si vous voyez qu'il fait vraiment très très chaud, donc votre poubelle, l'avantage, c'est qu'elle est noire. Elle va capter la chaleur. D'accord ? Elle va capter la chaleur. Donc vous allez prendre un verre. Vous allez le mettre là-dessous, ici. Vous allez ouvrir, vous allez vous mettre à cette distance, d'accord ? Ici. Je vous mime à peu près. Tac. Vous allez vous mettre ici.
Ah, super.
Voilà. Vous allez vous mettre à cette distance, là, et vous allez ouvrir d'un coup sec, là. Tac. Vous allez ouvrir. Ça va se remplir et vous fermer. OK ? Merci. Et vous allez regarder votre gobelet, d'accord ? Si vous avez de la mousse qui ne se délite pas au bout de 20 ou 30 secondes, c'est que votre extrait n'est pas prêt. La mousse, il faut qu'elle se délite. Vous prenez un petit bâton, vous essayez de casser les bulles. Si vous voyez que les bulles, elles insistent, elles sont toujours là, il n'est pas prêt. Ce n'est pas compliqué. Par contre, au bout, quand votre extrait est prêt, quand vous allez ouvrir, vous allez avoir de la mousse. Il va y en avoir un petit peu au milieu. Elle va être moins épaisse déjà. Et avec un petit bâton, si vous arrivez à la déliter, ou si elle se délite au bout de 20 ou 30 secondes et qu'il ne reste que 3 ou 4 bulles sur le bord, votre extrait est prêt. Si vous attendez un jour ou deux jours et qu'il fait très très chaud de plus, votre extrait, il est foutu. OK ? Vous voyez, c'est pour ça, c'est très subtil. Hein. Donc après, au lieu d'avoir un extrait fermenté, on va pouvoir parler de purin, parce qu'on est rentré dans la putréfaction, dans la pourriture. Mais là, ça, c'est pas bon du tout, parce que le redox, l'oxydoréduction, le côté oxygène, d'accord ? Eh bien là, il est monté, le redox, déjà. Donc trop d'oxygène, vous cramez le végétal. Et vous attirez les indésirables, en plus. Au lieu de les repousser, vous les attirez. C'est compliqué, hein ? Et ouais. Non, mais après, ne tenez pas compte de ce que je vous dis. Tenez compte juste du mode pratique de ce que je vous raconte. Vous ouvrez, vous regardez la mousse. Tenez compte que de ça. Parce que, voilà. Après, moi, je vous le dis clairement. Bon, ça, c'est des petits testeurs que j'ai pris pour vous montrer. Là, on est sur le redoxmètre. D'accord ? Le redoxmètre, c'est le paramètre. C'est de l'électricité. C'est du voltage. On calcule ça en millivolts. D'accord ? Ça, c'est le redox. Oxydoréduction en voltage. D'accord ? À savoir qu'un arbre, il a le même voltage que nous. C'est 100 millivolts. On est volté à 100 millivolts. Nous, l'être humain, l'arbre a un voltage de 100 millivolts. D'accord ? Voilà. Ça, c'est le redox, oxydo-réduction. Ça, c'est le pH. On contrôle aussi le pH. D'accord ? Le pH, c'est le facteur magnétique. D'accord ? Voilà. Moi, je contrôle tout ça avant d'embouteiller. Je ne le fais pas. Je commercialise les extraits fermentés. Donc, je me dois d'être carré dans ce que je fais. Et ensuite, ce que je fais, voilà, je vais encore plus loin là-dedans, c'est que je... J'ai cet appareil-là qui s'appelle un conductivimètre pour tester la conductivité
du purin. Voilà, c'est pareil, il y a une sonde, d'accord, on met la sonde dans le verre d'extrait fermenté, et ça vous donne la conductivité. C'est la proportion que les minéraux ont à se déplacer dans le sol. Voilà. Une fois que ces trois facteurs sont réunis, que j'ai la courbe qui est parfaite, et j'embouteille mon extrait fermenté. Mais vous, en tant qu'amateur, contentez-vous de la mousse. C'est un repère, déjà. D'accord. Si vous faites ce que je vous dis, votre extrait, il sera bon. Il ne sera pas nickel, comme moi je fais avec tous ces appareils-là, mais il sera bon. Ça, c'est clair. OK. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Si vous... ouais,
dans quel milieu vous le... À l'extérieur, vous pouvez, elles sont plein soleil, à l'ombre
Alors, moi, je vous conseille de la laisser en plein soleil, la cuve. Plus vous la laissez en plein soleil, plus ça va partir vite en fermentation. Voilà. Et je ne sais plus du coup. Voilà ce que je voulais vous dire. La conductivité. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la chose. Si vous avez des questions à poser.
Oui, s'il vous plaît. Une fois que le produit est au point, comment vous le conservez après?
Ah, très bien. Voilà. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Formidable. Alors, vous allez embouteiller vos extraits fermentés dans un bidon comme celui-ci, par exemple. D'accord ? Un bidon opaque. Il existe des bidons comme ça, mais qui sont translucides. Alors, si vous les mettez dans des bidons translucides parce que vous n'avez pas des bidons opaques, vous les mettez dans une cave à l'abri de la lumière. Il faut savoir que les ultraviolets, ça tue énormément les principes actifs des choses. D'accord ? Des plantes. Donc, bidon comme ça, rempli à ras-bord, j'insiste, surtout pas d'oxygène. L'ennemi de l'extrait fermenté, c'est l'oxygène. Si vous avez de l'oxygène, c'est mort. Donc vous remplissez jusqu'à ras-bord, d'accord, tac. Une fois que c'est rempli, tac, on ferme, on embouteille. Et là, on peut garder jusqu'à 3 ans avec un conservateur. Je vais vous donner la recette du conservateur. D'accord. Oui.
Une question. Attendez. Donne le micro.
Question bête. Oui. Vous dites à ras-bord, mais est-ce que la poignée est remplie là, parce qu'il y a de l'oxygène, elle arrive à se remplir?
Exactement. Alors, si vous avez la patience, vous l'inclinez un peu comme ça, d'accord, et après vous le refaites venir comme ça, mais à un moment donné, il va y avoir un peu d'oxygène là. Ouais. Mais ce peu d'oxygène, il n'entamera pas l'extrait fermenté. D'accord.
Merci. Voilà.
Quand si vous servez de la moitié du bidon, vous le prenez, vous mettez comme ça par terre, entre les jambes. Hop, vous pressez le bidon, vous faites remonter, et tac, et là vous refermez. Du coup, ben, vous avez un bidon aplati, mais vous en fichez. Au moins, vous êtes sûr que votre extrait peut encore se conserver. D'accord ? Dites-moi.
Excuse-moi, oui, encore oui. Une question sur l'eau. Si on a de l'eau bien calcaire,
ouais.
On met du vinaigre ou je sais pas.
Non, je mettrais rien.
Tu fais avec quoi ?
Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Non. Non, parce que parfois... Après, peut-être que quelqu'un te dira « Oui, mais du vinaigre. » Moi, je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je ne fais pas. Parce que peut-être que ton vinaigre, il va faire des actions à l'intérieur qui ne vont pas être bénéfiques pour ton extrait fermenté. Donc, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Je préfère pas le faire, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Alors, pour la conservation de ce produit, alors notez-le parce que c'est très important pour ceux qui voudraient le conserver, qui voudraient le conserver un peu longtemps. Alors, est-ce que vous êtes tous à vos stylos? Voilà, vous allez voir, c'est très simple. Hein. Le sol est mouillé. Alors, attendez que je le retrouve. Alors, vous allez, voilà, conservation du produit. Vous allez mettre 2 ml d'huile végétale bio, première pression à froid. C'est important. Voilà. C'est pareil, de l'huile végétale bio. Hein, parce que vous faites un produit naturel, ne mettez pas de l'huile de la lecieur à 2 francs qui est bourrée de produits. Quoi. D'accord? Alors. Tout ça, je vous donne ça, c'est pour un bidon de 5 litres. Après, si vous voulez faire un bidon de 1 litre, 10 litres, 20 litres, vous adapterez en fonction, d'accord ? 2 ml d'huile végétale bio, première pression à froid. Vous allez mettre 2 ml d'huile essentielle de romarin bio. Toujours pareil, hein, parce que dans les plantes aromatiques, il n'y a pas que du bio. OK ? Voilà. Et vous allez mettre ce qu'on appelle du tensioactif. Tensioactif, c'est du savon noir, d'accord ? C'est pour diluer l'huile. Sinon, votre huile essentielle, elle va rester en surface. D'accord ? Donc vous allez mettre du tensioactif et vous allez mettre à raison de 3% de savon noir. Voilà. 3% de savon noir. Non, par rapport aux 5 litres. Par rapport aux 5 litres. D'accord ? 3% de savon noir. Et là, vous allez pouvoir conserver votre produit 3 ans. Alors, en toute honnêteté, moi, j'ai testé des extraits. Moi, j'ai fait plein de tests. Hein. J'ai testé des extraits qui avaient 2 ans sans conservateur. Ils sont encore bons. Ils noircissent à terme, vos extraits. Ils vont devenir noirs. D'accord ? Après, si quand vous le préparez, c'est noir à la sortie, c'est pas bon. Mais si au bout de 2 ans, il commence à noircir, ça, ce phénomène, il est normal. C'est pas pour ça que votre extrait sera pas bon. Voilà, moi, j'ai réussi à en tester qu'il y avait 2 ans sans conservateur qui était encore bon. Donc voilà, c'est une marge que je vous donne, mais à savoir que si vous avez un potager, ça vous allez le manger en une saison, tranquillement quoi. Un petit potager de 80 ou 100 mètres carrés. Voilà. Et ça après, plantes d'intérieur et tout, elles en raffolent. Hein. Elles sont, voilà. Ça, l'hiver, la petite odeur, elle y est pendant 10 minutes dans le salon. Hein. Voilà. À ce compte-là, on va passer l'aspirateur dans la chambre, on redescend. Mais voilà, c'est pas dérangeant, c'est pas pire que. Voilà. Vaut mieux mettre ça que des produits, des solubles, des engrais solubles. Oui. Ah, attendez, micro. Hop. C'est madame.
Combien d'huile essentielle pour 5 litres
s'il Alors, vous plaît. C'est 2 millilitres d'huile essentielle. 2 millilitres. Voilà. D'huile de romarin bio. Vous allez voir. Et alors, l'idée de mettre aussi une huile essentielle, c'est de, que votre extrait ait une odeur un peu plus agréable au nez. Hein, en commercialisation, voilà, moi je commercialise ça dans les biocopes. Quand vous l'ouvrez, ça moelle la pisse de vache, on va dire. Pisse de vache romarin, c'est quand même meilleur.
Oui, je voulais préciser que il me semble que le savon noir, c'est justement pour, c'est pas pour la conservation, mais pour la croche, non ?
Exactement, tout à fait. Ouais, carrément.
Et moi, il y a quelques années, on m'avait dit que c'était l'huile essentielle de pamplemousse ou de la vitamine C pour conserver.
Oui, mais on peut aussi le faire avec de la vitamine C. On peut, voilà. Mais après, voilà, des méthodes, il y en a plein. Moi, je vous donne la mienne. Mais exactement, on peut donner de la vitamine C, oui. C'est très bon pour les plantes. Hein. Si vous leur donnez de la vitamine C, c'est comme à nous. Elle est capable d'assimiler la vitamine C, la plante. Voilà. Elle assimile les minéraux, elle assimile la vitamine C, le calcium, voilà, tout. Oui. Je vous écoute.
Ok, merci. Juste par rapport à le moment où le produit est prêt. Là, j'avoue que...
Oui, allez-y. Profitez alors, que je sois là, profitez, allez-y.
La mousse se délite, ça veut dire que quand vous remuez, il n'y a plus de mousse ça
alors,
veut dire...
si, alors, même si vous ne venez pas remuer avec un petit bâton, vous prenez votre verre, vous le mettez à la hauteur où j'ai montré, vous ouvrez d'un coup sec, d'accord ? L'idée, ce n'est pas ouvrir doucement. Hein. Si vous ouvrez doucement, vous n'allez pas forcément avoir de mousse. C'est comme, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme une bière quelque part. Si vous l'ouvrez doucement, ben vous allez avoir. Mais si vous l'ouvrez vite, hein, tac, hop, après ça fait de la mousse. Donc l'idée c'est de l'ouvrir vite pour justement c'est cette mousse qui va être le facteur indicateur de quel moment j'embouteille. D'accord ? Tenez-en bien compte. Donc vous ouvrez rapidement, vous fermez, hop, vous allez avoir de la mousse. Et vous comptez. Si au bout de entre 20 et 30 secondes cette mousse a disparu, votre extrait est bon. D'accord ? Mais méfiez-vous. De bien vérifier vos extraits fermentés assez régulièrement. Parce que si ça fait déjà 3-4 jours que votre extrait il est passé en putréfaction, vous allez ouvrir, vous allez avoir un petit peu de mousse, vous allez dire, ah, c'est bon, vous allez dire il est prêt. Ben non, c'est mort. Il vous faut le tester de manière à ce que quand vous l'ouvrez, vous ayez la grosse mousse. Ah, bon, celle-là, elle ne part pas de mousse. Bon, c'est pas aujourd'hui. Hop, demain, on y retourne. Hop, il y en a un peu moins. Bon, c'est pas aujourd'hui. Hop, tac. Ah, tiens, 1, 2, 3. Ah, mais c'est aujourd'hui, vous comprenez ? Ne passez pas du stade, il y a de la grosse mousse, hein, laissez pas 15 jours passer, ne revenez pas après, parce que sinon, votre extrait, il est plus bon, quoi. Ok ? C'est pas tous les jours, mais déjà, considérez qu'au bout de 4-5 jours, si vraiment, enfin 3-4 jours, si vraiment il cogne, oh ben là, je vais commencer à voir ce que mon extrait fait, quoi. Ok ? Sinon, vous prenez le bidon dans la voiture, hein, au boulot, tac, vous ouvrez à midi, ah, tac.
Et donc, à ce stade-là, il n'y a plus de fermentation ?
Non, la fermentation est en train de se terminer. Voilà, on sort de la fermentation, d'accord ? Il n'y a plus de bulles, voilà, il n'y a plus de mousse, d'accord ? Voilà, et pour voilà. Après, pour ceux qui veulent le faire en plus grosse quantité et tout, voilà, ça c'est une petite seringue agricole qu'on donne pour les bêtes, pour traiter les bêtes, on met ça dans, vous savez, les produits des traitements pour les bestioles, c'est 1 millilitre. Donc voilà, quand vous avez des gros contenants à faire, comme moi j'ai plein de bacs à faire, ben c'est gradué, donc du coup je sais qu'il me faut 4, 6, 8 millilitres. Donc paf, je pousse la seringue, tac, dans chaque bidon, à savoir, comme ça je sais exactement ce que j'ai mis. Voilà, c'est si vous voulez faire du gros quoi, d'accord ? Voilà, ça aussi ça peut vous être utile pour faire votre préparation. C'est des petits béchers qui ne coûtent pas grand chose. Voilà, si vous voulez en faire vraiment beaucoup, vous mettez tout ça, et puis après vous mettez tout ça dans la seringue, et puis après hop, tac, tac, ok ? Je pense vous avoir tout dit, à savoir voilà, que je fais de la formation plus poussée. Voilà, alors on parlera de l'oxydoréduction, on apprendra à se servir des appareils pour ceux que ça intéresse. Voilà. Mon site c'est cyprèsdemonarbre.com. Voilà, en tout cas j'étais ravi de partager ça avec vous. Moi je vais juste vous dire une chose, je fais aussi ça parce que l'avenir il est là-dedans. Je l'ai déjà dit en tout début, l'avenir il est plus dans les pesticides, il est plus dans toutes ces choses qui nous font mourir tous les jours. D'accord, l'avenir il est, moi j'ai un petit enfant qui a maintenant 8 mois, d'accord, donc je suis encore plus à fond, vous vous en doutez, j'ai redoublé même, voilà. Mais c'est même plus pour nous qu'on le fait, c'est pour eux quoi. Donc ce sont les seules solutions qu'il nous reste pour soigner les plantes. Et voilà, comme je disais, on a eu un laps de temps de 70 ou 80 ans où on a fait n'importe quoi. Sauf qu'avant, nos grands-parents, ils avaient tous les tuyaux. Ces tuyaux-là, ils ont été enfouis, ils ont été perdus. Tous ces savoirs-là, ils ont été enterrés volontairement par les gens qui ont voulu se faire de l'argent. Donc aujourd'hui, on doit revenir à ces méthodes-là, qui sont naturelles, peu coûteuses et bonnes pour l'environnement. Merci.
Il est possible, c'est possible encore des questions ? Donc j'ai trois questions, des réponses très très rapides. La première pour les cataplasmes sur les arbres, on le prépare à quel moment de l'année ?
Alors cataplasme, ça va être pour l'hiver, pour le préparer pour l'hiver.
Donc à l'automne quoi, on fait ça.
Voilà, l'automne, vous badigeonnez vos arbres. D'accord, et cataplasme, ça tient assez longtemps.
Et ça se conserve longtemps en...
Oui, ça... moi j'ai mes arbres fruitiers, on voit encore les traces de blanc.
Non mais en bidon, ça ne passe pas.
Ah. Non, le cataplasme, non, ça ne va pas se conserver.
D'accord.
C'est pas un produit qu'on peut garder. C'est à utiliser sur le moment et ensuite c'est fini.
Ok. La deuxième question, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir un extrait, d'avoir votre conférence, soit par Radio Albigès, soit par vous-même, pour la réécouter
Là, il faudra demander à Radio Albigès, oui, puisque moi, c'est pour moi qui l'ai enregistré. Mais bien sûr, oui, avec grand plaisir. Le but, c'est de diffuser, je vous le dis clairement. Alors, c'est clair que, j'ai pas honte de le dire. Aujourd'hui, cette conférence, elle est payée. J'en fais parfois des gratuites quand j'estime c'est des petites assos qui n'ont pas trop d'argent. Parce qu'il faut... Voilà. Non, mais bon, après, il faut manger un petit peu, vous vous en doutez. Mais le but, c'est que tout ne doit pas être question d'argent à chaque fois. D'accord ? Voilà. Ces savoirs-là, ça coûte que dalle. C'est rien. C'est clair. Il y a des gens qui me disent, mais c'est ton business. Ouais, mais j'ai dit, je m'en fiche. Il y a toujours des gens qui auront envie de le faire. Il y a toujours des gens qui l'achèteront. C'est pas le problème. On s'en fout. C'est juste de c'est un partage de connaissances, quoi.
Si je peux répondre pour Radio Albigès, l'émission, la conférence, comme toutes celles qui sont passées sous le chapiteau forum et celles de l'autre chapiteau, elles seront diffusées dans notre créneau conférence. C'est tous les dimanches soirs à 20h30, il y a une conférence. Donc celle de Biocibel, mais pas seulement, il y a des choses un peu partout dans le Tarn. Et disponible aussi pendant un an en podcast sur le site internet www.radioalbigès.com où toutes les conférences seront listées avec les coordonnées des conférenciers, etc.
Ok, merci. Et la dernière question, la plus horrible, je suis envahi d'orties.
Ah, mais soyez heureux, monsieur. Vous êtes béni.
Ah oui, mais un peu ça va, moyen ça va, non, mais trop non. C'est trop.
Mais oui, après vous savez, moi je suis aussi grimpeur arboriste, je fais aussi de la création de jardins en plantes méditerranéennes, plantes sèches et tout. Je suis aussi un petit peu dans la lignée de monsieur Clément, je sais pas si ça vous parle, qui est un jardinier qui a pris parti de vivre avec la nature. Je suis en train de monter un éco-site chez moi, d'accord, ou pour faire venir les écoles et les familles, c'est très important. J'ai arrêté de tondre. Déjà j'ai des moutons. Donc ça me voilà, mais il y a des solutions quelque part, vous voyez. Et ces moutons, la matière organique, elle est récupérée par mon sol. J'ai des bousiers, du coup, des petits bousiers qui travaillent. Je suis en train de remettre en place toute une chaîne qui avait été arrêtée parce que trop de tontes, d'accord, trop de choses mal faites. La perception que nous avons de la nature n'est pas la perception que la nature a d'elle-même. C'est compliqué, ce que je viens de dire, ou tout le monde a compris, d'accord. Notre perception, c'est pas forcément celle que la nature attend, d'accord. On taille des haies au carré. Un arbre, un végétal, c'est pas carré, c'est arrondi. Il y a beaucoup de choses rondes dans la nature. Montrez-moi un arbre carré. Je prends une photo, je le mets sur YouTube et demain, je suis riche. Il y a beaucoup de choses que nous faisons vivre à la nature qui n'est pas du tout ce que la nature attend de nous. D'accord ? Donc, il faut apprendre à vivre. Vous savez, l'ortie, moi, alors je vais vous répondre. Personnellement, il me va très bien, cette ortie, puisque je le récupère sur mon terrain. Je le laisse proliférer, justement, à des endroits. Il y a d'autres endroits, il y a d'autres plantes qui prolifèrent. Mais je me retrouve avec une multitude de papillons comme jamais j'en ai vu depuis que j'étais tout petit. Là, inutile de vous dire que sur les pare-brises, il n'y a plus aucun insecte qui s'écrase. D'accord ? Moi, quand je rentre dans mes prairies, des prairies où je ne rentre plus, je ne marche même plus. D'accord, je laisse faire la nature pour avoir des pollinisateurs pour ensuite aller sur mes arbres, mes espèces fruitières et biologiques. Je rentre dans si je marche ou je m'avance un peu dans cette prairie, et bien je me retrouve avec des papillons qui décollent de partout. On n'a plus de papillons, on n'a plus d'abeilles. J'ai des hôtels à insectes avec des xylocopes. Ce sont des abeilles noires, grosses comme ça. Ce sont des abeilles noires et bleutées. Vous en avez déjà très certainement vu. Mais ça, ce sont des abeilles charpentières. D'accord, je suis envahi de xylocopes. Tout le monde est venu chez moi. J'ai des oiseaux, j'ai plus de 20 nichoirs à oiseaux, tous les nichoirs sont occupés. Et pourtant, je suis au pied de la montagne noire. Je suis au pied de la montagne noire. Donc les oiseaux, si vous leur donnez de l'habitat, si vous donnez de l'habitat aux insectes, ils viennent.
on a un déficit en habitat dans les villes parce qu'on aseptise trop nos jardins ou nos parcs. Dès qu'il y a un arbre mort, on le coupe. Sauf que ben dedans, l'abeille charpentière, elle ne pourra pas aller faire son petit trou pour aller faire son petit miel. L'oiseau, il ne pourra pas piquer dedans pour aller faire son nid. D'accord ? On aseptise tellement les choses qu'on ne laisse même plus de place à la nature. Et ça, c'est dommage. Donc cet éco-site, il est fait pour ça. Voilà. Je me suis un peu éparpillé. Je fais aussi des conférences sur les jardins, sur la pelouse et les hauteurs de pelouse. Voilà, on peut en parler si vous avez deux minutes. On tombe trop court nos pelouses. Les abeilles n'ont plus rien à butiner. Plus rien à butiner. Parce qu'on ne laisse plus, dès qu'il y a un rayon de soleil, on sort la tondeuse. Sauf que dès qu'il y a un rayon de soleil, les tout premiers rayons de soleil, c'est les tout premiers rayons de soleil où les abeilles sortent pour aller butiner. Elles n'ont plus rien à manger. Dans les villes, dans les parcs, elles n'ont plus rien à manger. Donc la tondeuse, si vous aimez ça tondre, si c'est votre leitmotiv, je peux très bien comprendre. Hein. Il y en a d'autres qui aiment faire autre chose, il y en a qui aiment tondre. Mais si vous aimez tondre, attendez avant de tondre. On n'est pas pressé. Il y a les petites violettes, il y a les ficaires, il y a les renoncules, il y a les petites marguerites. Et si vous vous penchez, allongez-vous dans l'herbe, allongeons-nous dans l'herbe, redevenons des enfants, remettons-nous à quatre pattes. Et vous verrez que tous les insectes qui décollent, qui volent et qui pollinisent, mais vous verrez cette multitude de petits insectes qu'il y a. Le problème, c'est qu'on a grandi, on est devenu grand, et du haut parfois de nos 1m80 ou pour certains moins. Bon, c'est pas grave. Non, mais je veux dire par là que, eh bien, on n'a plus cette perception des choses. Les enfants, ils l'ont encore parce qu'ils sont en ras de terre. Voilà. Bon, j'arrête parce que ça pourrait durer longtemps. Mais... Merci.
Un grand merci à Thomas Braille pour sa conférence. Donc, vous pourrez réécouter sur Radio Albigès, on vous le rappelle, le dimanche soir à partir de 20h30, c'est le créneau conférence. Juste un petit mot pour vous dire que les conférences reprennent sous le chapiteau à 14h avec la conférence sur l'utilisation de l'eau de pluie par Pierre Lécolo, un subtil jeu de mots. Ensuite, à 16h, il y aura une conférence de Thierry Olivero sur l'abeille citoyenne. Voilà, c'est le programme sous ce chapiteau. Je sais qu'il y a aussi d'autres ateliers sous l'autre chapiteau, là-bas, un peu plus grand. Et j'en profite aussi pour vous glisser que vous pourrez aller écouter le groupe Tabaum. C'est de la samba et du foro, c'est pour danser. Et ça va arriver d'ici quelques instants à l'espace pique-nique. Donc voilà, d'ici là, bon appétit et puis à tout à l'heure.
Et un dernier petit point, on a les faucheurs volontaires qui sont passés tout à l'heure pour continuer à faire passer un message. On a parlé tout à l'heure de pesticides. Si vous voulez vous porter volontaire pour porter plainte collectivement contre Monsanto, mais d'abord, avant ça, de faire un test de votre urine pour savoir si vous avez du glyphosate dans l'urine, et apparemment, on en a tous un petit peu, il y a le stand de faucheurs volontaires donc, qui vous pouvez laisser vos coordonnées. Ça part d'abord d'Ariège, mais dans le Tarn, il y a un petit collectif qui se monte aussi. Donc, ils vous expliqueront comment faire. Il y a un petit coup, ils essaient de faire baisser les coûts par rapport à l'analyse d'urine, mais en tout cas si vous avez du glyphosate dans vos urines, ils peuvent vous aider à le prouver et à porter plainte collectivement contre Monsanto. Donc c'est les faucheurs volontaires qui sont derrière sur le stand.
Un grand merci à Thomas Braille et à l'association Nature et Progrès qui organise chaque année la foire Biocibel à Groyer. Si vous voulez réécouter cette conférence, elle est évidemment disponible en podcast sur notre site internet à l'adresse www.radioalbiges.com. Ne manquez pas tous les dimanches à 20h30 la rediffusion des autres conférences enregistrées à Biocibel en mai dernier, ainsi que d'ailleurs d'autres conférences sur bien des sujets différents. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, d'avoir suivi ce programme en notre compagnie. Très bonne fin de soirée sur Radio Albitzès et à dimanche prochain pour une nouvelle conférence. Adicias.